BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Thomas Asportas.
Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a cette réunion, ça se tient en ce moment même, cette réunion à haute tension entre Bruno Le Maire et le ministre chinois du Commerce. Il est de passage à Paris. On va parler forcément voitures électriques, on va parler aussi importation de cognac en Chine, panneaux solaires. La France plaide pour une préférence européenne, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire aujourd'hui. Mais elle doit aussi bien évidemment ménager la Chine à un mois de la visite de Xi Jinping en France. On va vous raconter tout ça ce soir dans Good Evening Business. Sinon, c'est aujourd'hui la réunion de la dernière chance pour les partenaires sociaux pour tenter de trouver un accord sur la fameuse question de l'emploi des seniors. On en parle avec l'un des députés aux avant-postes de la réforme de l'assurance chômage promise par Gabriel Attal. C'est le député Marc Ferracci, vice-président du groupe Connaissance et l'invité d'Edwige Chevrillon dans 10 minutes dans la grande interview. Et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a encore beaucoup d'autres sujets à voir avec eux ce soir, et notamment cette question qui revient, vous allez me le dire, tous les printemps avec le début de la saison des assemblées générales. Est-ce que Carlos Tavares mérite sa rémunération? Est-ce que le patron de Stellantis vaut 36 millions d'euros? C'est ce que propose le board de Stellantis. Ce sera évidemment un sujet polémique au cœur du débat ce soir de Good Evening Business. C'est parti, on est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de parler de la rémunération de Stellantis, on va s'intéresser à une autre entreprise qui fait l'actualité quasiment tous les jours. Bonsoir Mathieu Pechberti. On parle d'Atos en l'occurrence avec cette réunion cruciale qui se tient en ce moment même pour l'avenir du groupe. Atos réunit ses créanciers pour leur présenter son plan de sauvetage qui va être dévoilé demain matin. On le sait, il y a plus de 4,5 milliards d'euros de dettes à restructurer, mais on sait déjà qu'une grosse partie de la dette va être annulée et qu'une augmentation de capital massive est dans les tuyaux.
Oui, exactement. Cette réunion est très importante puisque les créanciers vont enfin apprendre à quel sauce il va être mangé finalement. Hein, les banques et les fonds d'investissement créanciers d'Atos, la société va leur annoncer son plan de restructuration. Donc effectivement, comment elle voit l'avenir pour redevenir rentable ou en tout cas fonctionner comme une entreprise normale qui a perdu plusieurs milliards d'euros sur ces trois dernières années. Il y a effectivement un peu plus de 4,5 milliards d'euros de dettes. Les investisseurs globalement et les créanciers s'attendent à une annulation de la dette très très forte, environ la moitié. On n'a pas de chiffres aujourd'hui, il y a différents scénarios, mais c'est en gros ce à quoi ils s'attendent, et le reste des dettes serait refinancé, donc rééchelonné sur plusieurs années, et en contrepartie il y aurait effectivement une augmentation de capital. Là encore, les chiffres varient beaucoup, on est entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour les plus pessimistes, et les repreneurs pourront ensuite se manifester auprès de l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou. Oui. Le premier d'entre eux qui se manifeste depuis maintenant plusieurs semaines, c'est David Layani. Oui. Le fondateur de OnePoint, premier actionnaire d'Atos, qui vient de s'associer avec l'investisseur français Walter Butler.
Voilà, alors ça c'est l'annonce des derniers jours. On a effectivement ce tandem Butler-Layani pour la reprise et la relance d'Atos. On a aussi, d'après vos informations, l'État et Dassault qui sont à la manœuvre autour des activités souveraines d'Atos.
Oui, exactement. Vous savez que Bruno Le Maire avait dit qu'il surveillait et qu'il allait essayer de construire une solution nationale, hein, il y a 15 jours, autour de ses activités, hein, à la fois de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Ces contrats très importants avec notamment l'armée française pour la dissuasion nucléaire, pour les sous-marins, même pour les centrales nucléaires d'EDF. Et donc, ouais, il faut qu'il reste français et en tout cas proche de l'État. Airbus avait regardé, a abandonné, et donc maintenant, l'État reprend les choses en main. C'est directement l'agence des participation de l'État, l'administration de Bercy qui se plonge dans le dossier et qui le reprend en main, orchestre cette solution nationale et essaye, et en tout cas pousse le groupe Dassault Aviation, évidemment très proche de l'État dans l'armement, pour être à la manœuvre. C'est une solution qui ne plaît pas forcément à Dassault Aviation à la base, hein, qui ne souhaite pas reprendre ses activités, mais en tout cas une source proche du groupe nous dit clairement qu'il fera un effort pour que ses activités restent françaises dans la mesure où elles entrent dans la conception du Rafale.
Bon, effectivement, enjeux cruciaux, et on en saura un peu plus dans les prochaines heures.
Demain matin, en tout cas, voilà.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On poursuit, 18h04, on poursuit avec cette mise en garde des États-Unis et de la France face à la déferlante de produits chinois. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se sont exprimés tous les deux aujourd'hui sur la question. Et vous allez voir que les deux camps ont les mêmes arguments face à la concurrence chinoise. Timothée Marouzet.
Tous unis face à la Chine. C'est ce qui ressort à quelques heures d'intervalle entre les discours américains et français. À Pékin d'abord, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que les États-Unis ne laisseront pas leurs industries se faire étouffer par les produits chinois à bas coût.
Le marché mondial est inondé par des produits chinois au prix artificiellement bas, ce qui remet en question la viabilité des entreprises américaines et étrangères. Il y a comme un air de déjà-vu.
À Paris, même son de cloche du côté de Bruno Le Maire, autour de ses homologues italiens et allemands. Il souhaite que l'Europe montre les dents en simplifiant ses normes et en augmentant sa compétitivité. Il dénonce un retard européen face à la Chine.
La Chine et les États-Unis ne nous attendront pas. Et la Chine et les États-Unis ne nous feront aucun cadeau. Nous sommes à un moment critique entre le protectionnisme américain et le risque de voir arriver sur le marché européen, des produits chinois à prix cassé.
Le ministre de l'économie a rencontré ensuite le ministre chinois du commerce de passage à Paris. Au cœur des discussions, les voitures électriques chinoises. Là encore, un point de tension depuis plusieurs mois. L'UE ayant décidé de les taxer lourdement pour concurrence déloyale.
Timothée Marozé, on poursuit avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors. Bonsoir Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Les syndicats et le patronat sont réunis depuis 9h du matin pour tenter enfin de parvenir à un accord après 3 mois de négociations. Mais visiblement, Caroline, c'est laborieux. On n'y est toujours pas.
C'est ça. Chacun campe pour l'instant sur une position très divergente. Les organisations patronales veulent toujours absolument instaurer un nouveau CDI senior, enfin, qu'ils ont rebaptisé pour faire passer la pilule, mais réservé aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans et qui leur permettrait de rompre ce contrat une fois la retraite à taux plein du salarié atteint. Les syndicats n'en veulent absolument pas. Pour eux, c'est une ligne rouge. Derrière, le MEDEF et la CPME refusent toujours d'instaurer le fameux compte épargne temps universel qui permettrait aux salariés de stocker des congés et de les conserver d'une entreprise à l'autre. Autre sujet, autre divergence, le patronat est prêt à ce que l'emploi des seniors devienne un sujet de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Là, les syndicats demandent à ce que ce soit dans toutes les entreprises des 50 salariés. Puis surtout, ils veulent que soient instaurées des pénalités pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, ce qu'évidemment le patronat refuse.
Bon, donc en gros, on est d'accord sur rien. Et cet après-midi encore, visiblement, on était loin de trouver un consensus.
C'est ça, les discussions sont laborieuses, nous ont dit les syndicats il y a encore quelques heures. Donc les discussions pourraient s'éterniser jusqu'à tard dans la nuit, et c'est à ce moment-là que chacun pourrait lâcher du lest, en tout cas ce qu'espèrent les responsables syndicaux. On sait que c'est souvent dans la dernière ligne droite que se conclut un accord, et on sait aussi que patronat comme syndicat ont tout intérêt à s'entendre, parce que de cet accord dépend derrière le fait que le gouvernement valide l'accord sur l'assurance chômage qui a été conclu entre les partenaires sociaux en novembre dernier. Or, dans cet accord, le patronat a obtenu une baisse des cotisations de 0,05%, ce qui est peut-être de nature à les convaincre de conclure un accord sur l'emploi des seniors. Et puis cela enverra évidemment un très mauvais signal, à un moment un signal de divergence, d'incapacité à s'entendre des partenaires sociaux, à un moment où le gouvernement promet une nouvelle réforme de l'assurance chômage et où il menace régulièrement de reprendre la main sur la gouvernance de l'UNEDIC.
Merci beaucoup Caroline, et on en parle dans 5 minutes avec Marc Ferracci, évidemment un peu aux avant-postes de ce genre de réforme, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Et puis pour finir, on va parler un peu d'immobilier pour finir ce journal. Bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
Le réseau Century 21 vient de publier son baromètre du premier trimestre tout à l'heure, et visiblement le marché sort un peu la tête de l'eau, on va dire ça comme ça, avec des prix qui continuent de baisser, Léo.
Oui, c'est la première bonne nouvelle, moins 3% environ sur un an au niveau national, et si on regarde seulement à Paris, c'est moins 9%, on est désormais à 9 100 € le mètre carré. En fait, les prix grimpent dans trois régions uniquement, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, et ils baissent partout ailleurs. Deuxième raison d'espérer pour le marché immobilier, la demande semble un peu plus vive. Les indicateurs de Century montrent que les acquéreurs relancent leurs projets et leurs démarches, mais ce n'est pas encore assez pour redresser le marché. Les premiers effets positifs de ces chiffres sont attendus pour la fin d'année, car au premier trimestre, même si elle ralentit, la chute des ventes se poursuit, moins 11% sur un an, et ça c'est aussi parce que la correction des prix n'est pas encore suffisante au regard des taux d'intérêt toujours élevés. On est à 3,9% en moyenne aujourd'hui. Pour retrouver un niveau comparable de taux, il faut remonter en 2012. Et en 2012, Century 21 nous dit que les biens étaient entre 17 et 19% moins chers qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Léo. Il y a encore un peu de rattrapage à faire, effectivement. 18h09, on va sur les marchés.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview dans un instant ou même tout de suite puisqu'il est en studio à mes côtés, c'est Marc Ferracci, député des Français de l'étranger et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonsoir Marc Ferracci.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, je sais que les agendas sont assez compliqués parce qu'il faut trouver des économies, il faut trouver des pistes, il faut trouver des accords. Pendant que nous parlons, il y a peut-être un accord qui est signé justement sur les parcours professionnels et sur l'emploi des seniors. Et puis ensuite, évidemment, la deuxième salve sera sur la énième, la quatrième réforme de l'assurance chômage. Vous nous direz pourquoi. Juste avant de passer sur l'accord sur les seniors, qu'est-ce qui est important pour vous? En plus, vous, vous avez des propositions, même si vous êtes très proche du pouvoir et du président, qui vont un peu à l'encontre de ce que dit le Premier ministre. Donc ça va être un peu compliqué à comprendre, mais on va essayer de comprendre. Vous avez vu ce sondage qui dit que 30% des jeunes ne veulent pas de seniors. Ils en veulent bien dans les autres entreprises, mais pas chez eux. Et 38% des cadres. Ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire qu'il y a un sujet culturel auquel il faut s'attaquer. Il y a beaucoup de leviers pour permettre aux seniors d'être plus en emploi. Vous savez, les 60-64 ans, ils ont un taux d'emploi, c'est-à-dire une proportion de gens qui travaillent, qui est deux fois moindre que chez nos voisins. C'est 30% chez nous, c'est 60% ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet. Le sujet, il s'attaque par différentes faces. Il y a un sujet culturel. Moi, je suis pour mettre un petit peu de pression sur les employeurs pour dévoiler ce que sont leurs pratiques de recrutement. Il y a des discriminations à l'embauche sur les seniors. J'ai porté une proposition de loi qui vise à généraliser ce qu'on appelle les testings en matière de lutte contre les discriminations.
Testing et name and shame, pour
exactement,
parler français.
Exactement. Ouais. Testing, name and shame, si vous voulez, ou publicité des noms des entreprises qui discriminent, soit sur les seniors, soit sur l'âge, soit sur le sexe, soit sur les origines. Et il y a effectivement un testing qui est en préparation sur l'emploi des seniors dans le cadre de cette proposition de loi. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels il faut insister. Il y a des enjeux de reconversion professionnelle. Parfois, c'est très difficile.
Attendez, Marc Ferracci, on va en reparler, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quand même cette question de, vous avez dit, culturelle, et puis il y a aussi cette question de, peut-être, de mettre plus la pression sur le patronat, parce que visiblement, il y a l'accord qui va être signé. Quand vous interrogez les syndicats, ils vous disent, il n'y a rien de révolutionnaire, on n'est pas dans le grand soir social, parce qu'il y a une forme de conservatisme du patronat. Est-ce qu'il faut faire quelque chose?
Écoutez, je pense qu'il faut inciter les entreprises, y compris les inciter financièrement. Moi, j'ai fait une proposition assez simple, c'est de faire évoluer quelque chose qui existe déjà, on n'a pas besoin de tout recréer, c'est un système de bonus-malus qui aujourd'hui lutte contre les contrats courts et ça marche, on peut le faire évoluer facilement pour inciter les entreprises à maintenir en emploi des seniors.
Ouais.
Concrètement, ça veut dire qu'il faut que le système tienne compte de ce que coûte l'entreprise à l'assurance chômage. Les seniors, on le sait, ils sont mieux indemnisés que les autres salariés, ils restent plus longtemps indemnisés par le chômage et donc ils coûtent plus cher.
Donc
si on fonde le bonus-malus là-dessus, eh bien, il y aura de bonnes incitations à maintenir les seniors dans l'emploi. Puis après, il faut faire en sorte que les seniors qui passent par le chômage retrouvent un emploi. Vous vous souvenez, pendant la réforme des retraites, on a discuté d'un index senior, c'est-à-dire un index qui dit quelle entreprise joue le jeu de l'emploi des seniors. Moi, j'étais assez favorable à cet index parce que quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens au-delà de 50-55 ans qui envoient des dizaines, des centaines de CV à des entreprises qui ne leur répondent pas. L'index, ça permettrait de cibler sur les bonnes entreprises, c'est-à-dire celles qui jouent le jeu de l'emploi des seniors.
Alors, je vous repose ma question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette question du name and shame? Est-ce qu'il faut pointer les entreprises du doigt? Est-ce qu'il faut des sanctions? Parce que, évidemment, le MEDEF ni la CPME n'en veulent de ces sanctions. Mais est-ce qu'il faut y aller jusque-là ou pas?
Vous savez, les discriminations sur le marché du travail, tous critères confondus, c'est l'âge, le sexe, les origines, ça coûte 150 milliards d'euros à terme à la collectivité. C'est France Stratégie, c'est France Stratégie qui a établi ça.
Non, c'est France Stratégie.
C'est France Stratégie en 2016 qui a, sur 4 ou 5 années, en point de PIB, ça coûte 150 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seraient en emploi sans les discriminations, qui n'y sont pas à cause des discriminations. Et ça coûte énormément d'argent, ça coûte des cotisations, ça coûte de la productivité, ça coûte des richesses. Donc à un moment ou à un autre, les entreprises, elles doivent aussi prendre en compte cela. Elles nous le disent, des problèmes de recrutement à régler. Et pourtant, elles continuent, pour certaines d'entre elles, pas pour toutes,
Il suffit de regarder les taux de chômage.
Des pratiques de recrutement qui sont parfois discriminantes. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience. Le fait de faire des testings est de nature à aider cette prise de conscience. Et puis après, il faut accompagner les entreprises.
Oui, mais attendez, vos testings, Marc Ferracci, vous êtes souvent ici à ce micro, ça n'a pas avancé. Vous êtes toujours dans l'idée d'en faire.
Bien sûr.
Mais on n'en fait pas.
Mais on n'en fait pas parce que cette proposition-là n'a pas encore été adoptée. On a une commission mixte paritaire mercredi, dont je ne sais pas si elle sera conclusive. Peut-être qu'on sera obligé d'aller en deuxième lecture. Oui. En tout état de cause, moi je suis quelqu'un d'opiniâtre. Donc ce texte, je pense qu'on l'adoptera et on l'adoptera dans une version ambitieuse à la fin. Et j'espère qu'on multipliera les testings et notamment les testings à l'embauche sur les seniors.
Sur cet accord, c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu la séance de la dernière chance, non, pour trouver un accord.
Les partenaires sociaux sont en train de négocier au moment où on se parle. On sait qu'il y a des points durs dans la négociation, ça a été dit sur votre plateau il y a quelques minutes. La question du compte épargnant universel dont une partie des organisations patronales ne veulent pas.
On se demande pourquoi, il reste une question un peu d'organisation, ça serait plus compliqué.
Je pense que la préoccupation, la crainte, c'est effectivement que ça déstabilise certaines entreprises, mais justement, un accord c'est fait pour discuter des détails, pour dire regardez, le compte épargnant universel c'est épargner des jours de congé quand vous êtes jeune et que vous avez la possibilité de ne pas tous les prendre, pour pouvoir à 45 ans vous reformer, pour pouvoir prendre une retraite plus précoce. Concrètement, on pourrait tout à fait discuter de la manière dont on organise tout ça dans le cadre d'un accord interprofessionnel. Donc moi, je regrette qu'il y ait cette rigidité, ce blocage de la part de certaines organisations patronales sur le CETU.
Du patronat, dites-le. Vous êtes sur le business.
Pas toutes, parce que l'UDP, les artisans, se sont déclarés, eux, favorables au CETU. Donc c'est le MEDEF et la CPME qui aujourd'hui sont en position de blocage.
Pourquoi ils sont ringards, ils sont conservateurs?
Non, je n'utiliserai pas ces termes, mais je pense qu'ils ont des préventions qui ne se justifient pas. Moi, je pense que par le dialogue, on peut trouver des voies de passage et par exemple préserver les petites entreprises des effets de bord qui peuvent exister avec ce genre de dispositif.
Mais alors, le problème de cette négociation, de la dernière chance sur cet accord, avec le gouvernement qui a promis de reprendre l'accord si l'accord était signé, mais il y a quand même toutes les organisations, syndicales et patronales, ils ont le couteau sous la gorge. Parce que avec Gabriel Attal, donc, qui a menacé, qui a dit qu'il voulait une quatrième réforme de l'assurance chômage, qui veut reprendre la main, qui veut, pardonnez-moi, mais piquer la cognate de l'assurance chômage, de l'Agirc-Arrco, je fais un peu de provoque. Chacun son tour, Marc Ferretti. Est-ce que c'est une manière un peu de tuer le dialogue social? Parce qu'ils sont obligés de trouver un accord, même si c'est à minima.
Bon, déjà, l'accord qui est en train d'être négocié, il porte sur des sujets bien plus larges que l'assurance chômage. Il y a l'emploi des seniors avec la question des retraites progressives, des reconversions. Il y a l'usure professionnelle, il y a le compte épargne temps universel. Donc c'est plus large. Mmh. Et puis il y a une dimension assurance chômage. Il faut quand même savoir que les partenaires sociaux, ils ont négocié sur l'assurance chômage à l'automne. Mais ils n'ont pas coché toutes les cases que leur avait demandé le gouvernement.
Bah, attendez, ils ont coché leurs cases. Après, ils n'ont pas coché forcément. La case que voulait sur le fait de décaler le départ à la retraite.
On leur a envoyé un document de cadrage, le gouvernement leur a envoyé un document de cadrage pour cadrer la négociation, comme son nom l'indique, qui disait qu'il fallait faire des économies sur ce que l'on appelle la filière senior. Oui. 440 millions d'euros d'économies. Oui. Rien n'a été fait sur ce sujet parce que les partenaires sociaux ont dit on renvoie ça à la négociation globale sur l'emploi des seniors. Ouais. Donc l'enjeu de cette négociation sur le volet assurance chômage, c'est que s'ils font effectivement ce qui était prévu par le gouvernement à l'automne, eh bien le gouvernement validera rétroactivement l'accord qui a été signé sur l'assurance chômage.
Mais de toute manière, il y aura une réforme sur l'assurance chômage.
Voilà.
Le Premier ministre l'a dit. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est
tout à fait, mais
c'est un peu ubuesque,
sujet,
non ?
Sur ce sujet, d'abord, s'il y a une réforme, elle passera par le dialogue social. Il faut bien en avoir conscience. S'il y a une réforme, elle va consister à demander aux partenaires sociaux de négocier de nouveaux paramètres et de nouvelles règles d'indemnisation ou d'affiliation pour l'assurance chômage. Donc concrètement, on ne court-circuitera pas le dialogue social. C'est ce que prévoit la loi, de demander aux partenaires sociaux de négocier. Et ensuite, effectivement, il faut tenir compte d'un contexte qui a changé. Aujourd'hui, vous avez toujours des tensions de recrutement qui sont très fortes. Vous avez, moi, quand je vais sur le terrain, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et vous avez la nécessité de résoudre ce problème pour aller vers le plein emploi. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une réforme de l'assurance chômage? On donne des incitations aux acteurs, que ce soit les entreprises ou les personnes qui cherchent un emploi, pour accroître le niveau de l'emploi. Pour moi, c'est ça une réforme de l'assurance chômage.
Oui, mais en même temps, regardez, sur les termes de l'assurance chômage, donc les syndicats, les patronaux et les salariés ne sont pas d'accord. Vous n'êtes même pas d'accord avec le Premier ministre, puisque le Premier ministre, lui, il veut raccourcir la durée d'indemnisation, il veut passer peut-être de 15 à 12 mois, en tous les cas, c'est comme ça, ça se passe en Allemagne. Et vous, vous dites, non, ça sert à rien. Il faut, c'est la durée d'affiliation pour toucher les droits à l'assurance chômage.
Effectivement, donc, j'ai une divergence de vue. J'ai une divergence de vue sur ce sujet.
Et pourtant, vous êtes vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, donc encore une fois,
on n'est pas de Macron. On n'est pas des godillots, vous le savez. On exprime des divergences, on exprime des différences, mais je n'exprime pas de divergence sur le principe d'une réforme. Je pense qu'une réforme est utile et nécessaire. En revanche, sur les modalités de la réforme. La durée d'indemnisation, si on la baisse, d'abord, ça produit des effets, mais dans un temps assez long, parce qu'il faut attendre que les gens arrivent au bout de leur période d'indemnisation. Ensuite, ça touche des gens qui sont parfois en difficulté parce qu'ils sont au chômage depuis longtemps. Moi, je préconise
plus... Donc, ils ne savent pas comment retrouver un job.
Je préconise plus de jouer sur la durée d'affiliation, c'est-à-dire le nombre de mois que vous avez besoin de travailler pour être au chômage. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est plus juste. Vous touchez des gens qui sont employables par construction, puisqu'ils sont déjà en emploi, on leur demande de travailler un peu plus. Ça a des effets beaucoup plus rapides. Et puis, dernier élément, on a mis en œuvre en 2023 ce fameux principe que vous connaissez, qui est la contracyclicité, qui consiste à dire, quand la situation du marché du travail s'améliore, on diminue la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, la situation du marché du travail s'est stabilisée, voire le taux de chômage augmente un tout petit peu. Donc il me semble préférable d'agir sur d'autres paramètres que la durée d'indemnisation. Voilà l'expression de ma divergence, mais ce n'est pas une divergence sur le principe ou non d'une réforme, c'est une divergence sur la manière dont on l'amène. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais enfin, excusez-moi, mais c'est quand même une vraie divergence de fond avec la réforme préconisée par le Premier ministre.
Écoutez, le Premier ministre, il a dit une chose, il a dit que tous les paramètres étaient sur la table. Il y a un paramètre quand même qu'il a écarté, je pense qu'il a eu raison de le faire, c'est le montant de l'indemnisation. Parce que le montant, on l'a déjà réformé dans les années précédentes, et en plus, on est assez proche de nos voisins. En revanche, sur la durée d'affiliation, permettez-moi de terminer avec ça. Aujourd'hui, en France, il faut travailler 6 mois sur les 24 derniers pour ouvrir un droit à l'assurance chômage. En Allemagne, c'est 12 sur les 24 derniers. Et dans la plupart des autres pays, on est proche de ce ratio de 1 jour sur 2. Donc, concrètement, je pense qu'on est aujourd'hui singulier et il faut agir sur ce sujet.
Oui, mais alors pourquoi, enfin, est-ce qu'il n'aurait pas été bien qu'il y ait quand même un accord, au moins un front commun de la majorité ?
Écoutez, moi je discute avec mes collègues, je pense qu'il y a peut-être des voies de passage. Moi je défends cette idée de l'affiliation et on verra à la fin ce que le gouvernement fera. Mais encore une fois, le gouvernement, il va donner...
Ça rapporterait combien ? Est-ce que vous avez fait au moins une étude d'impact ?
Non mais attendez...
Parce que c'est un peu le problème...
Les études d'impact, j'en ai fait beaucoup, plutôt j'en ai fait faire beaucoup. Quand j'étais conseiller de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ça ne se fait pas sur un coin de table avec deux gribouillis. Ça se fait en utilisant des bases de données dont dispose Pôle emploi, France Travail maintenant, dont dispose l'UNEDIC. Et donc, il faut faire tourner des simulations un peu lourdes. Ce ne sont pas les parlementaires qui ont accès à ces données, mais le gouvernement fait probablement ce genre de simulation aujourd'hui.
Ah bon ?
Ah bah, j'espère que... Bah,
et vous en avez fait, là, au moment, au moins sur votre mesure à vous, non ? Vous ne savez pas ? Ce que vous proposez, votre proposition ?
Ah ben moi, j'ai une proposition de principe qui consiste à dire qu'il faut passer de 6 mois à plus que 6 mois. Okay. Mais je n'ai pas dit si c'était 8, 10...
Non. Voilà. Si je vous pose la question, Marc Ferracci, c'est vrai que y a, certains disent mais réforme de l'assurance chômage, en fait, ça ne rapportera pas grand-chose. Or là, il faut trouver 60 milliards d'économies.
Mais vous savez, une réforme de l'assurance chômage, il ne faut pas la faire pour faire des économies, il faut la faire pour améliorer le niveau et aussi la qualité de l'emploi. Ça fait faire des économies et ça fait faire des recettes supplémentaires. Parce que quand vous mettez les gens au chômage...
Ça a été présenté.
Mais ça, je pense que c'est une manière de présenter qui, effectivement, aurait dû mettre plutôt l'accent sur les impacts sur l'emploi que les impacts sur le budget. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'une réforme de l'assurance chômage, j'ai même dit dans l'hémicycle, la semaine dernière, à Gabriel Attal lui-même, à qui j'ai posé une question au gouvernement, j'ai dit qu'une réforme de l'assurance chômage ne devait pas avoir pour objectif premier de faire des économies, mais d'améliorer le niveau et la qualité de l'emploi.
Elisabeth Borne, Olivier Dussopt aussi, à ce même micro, il y a quelques semaines. Sur la question, justement, du déficit. Est-ce que vous êtes tombé aussi de l'armoire lorsque vous avez connu les chiffres du déficit de la France, des finances publiques ?
Effectivement, le déficit 2023 était prévu à 4,9%, il est de 5,5%. Ouais. C'est un écart qui est très important. C'est un écart qui ne résulte pas d'un dérapage des dépenses. Les dépenses, elles ont été maîtrisées, il faut le dire.
Ouais,
ça résulte de recettes.
Elles continuent d'augmenter.
Ça résulte, oui, mais elles sont ce qu'il était prévu qu'elles soient. C'est ça résulte d'un niveau de recette qui est inférieur à ce qu'on avait prévu. Ouais. Pourquoi ? Parce que les droits de notaire ont été inférieurs, parce qu'un certain nombre d'entreprises ont passé des provisions, ce qui a limité leurs résultats, et avec des recettes d'impôts sur les sociétés inférieures. Bref, tout ça est plus difficile à anticiper sur le volet recettes que sur le volet dépenses. Mais je veux le dire, il n'y a pas d'insincérité budgétaire, sinon la Cour des comptes l'aurait dit, et elle n'a pas décelé d'insincérité budgétaire.
C'est très rare, quand même. Le niveau atteint par les déficits publics, c'est très très rare, a dit le premier président de la Cour des comptes.
Bien sûr, c'est un niveau, mais c'est un niveau qui résulte aussi de la situation.
C'est un échec, quand même, quelque part, pour vous, pour votre majorité.
Vous savez, avoir protégé les Français, leur pouvoir d'achat, à la fois durant le Covid et durant la crise en Ukraine, avec les effets inflationnistes qu'elles avaient.
Les Allemands connaissent la même chose, les Espagnols ont connu la même chose, les Italiens ont connu la même chose.
Pardonnez-moi, les Allemands sont en récession et pas nous.
Oui.
Les Allemands sont
en récession. Oui, mais.
Pardonnez-moi, Edwige.
Plus 0,1 ou moins 0,1.
Ce que nous avons fait a aussi contribué à soutenir la consommation et donc à soutenir la croissance. Il faut quand même avoir cela en tête. Je pense que le rebond que nous allons connaître fin 2024, début 2025, quand les taux vont baisser, l'inflation ralentit, et c'est un élément favorable pour le rebond économique, eh bien ça va nous permettre de réduire les déficits beaucoup plus rapidement. Moi, j'attends. Le gouvernement va publier ses prévisions de trajectoire pour les prochaines années. J'espère qu'elles resteront ambitieuses en matière de réduction de déficit. Et si on continue à faire des réformes comme celle de l'assurance chômage, on y arrivera.
Si vous dites, comme a dit le Premier ministre, on va rester en dessous des 3% en 2027, etc. On saura. Mais enfin, il faut que ça soit réaliste, voire réalisable.
Mais moi, je pense qu'on peut atteindre cet objectif.
Vous avez une minute pour nous dire, en chiffrant, nous dire où est-ce qu'on va trouver des économies.
Il faut marcher sur deux jambes. Déjà, il faut créer des emplois parce que c'est avec des recettes supplémentaires qu'on fait baisser les déficits beaucoup plus qu'avec des dépenses en moins. Ensuite, sur les dépenses, moi j'ai fait des propositions. On dépense 4 milliards d'euros pour des aides à l'embauche des apprentis, dont un grand nombre profite à des gens qui sont dans l'enseignement supérieur. Or, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, moi je l'ai dit quand j'étais encore universitaire, ça n'a que très peu de valeur ajoutée en matière d'insertion professionnelle. On pourrait faire de grosses économies sans nuire à la croissance et sans nuire à l'insertion des jeunes. On a des sujets comme la réduction ou la limitation des dépenses de santé. Vous savez qu'on dépense 5,7 milliards d'euros, vous voulez des chiffres, je vous en donne, sur le transport médicalisé. Ouais.
Bon, ça c'est en route, si je veux dire.
Ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on est fondé à avoir une régulation beaucoup plus stricte. Et je pense que le gouvernement, avec les parlementaires, notamment ceux de la Commission des affaires sociales dont je fais partie, sont en train d'y réfléchir. Il y a tout le volet, encore une fois, des niches fiscales. Les niches fiscales et sociales, moi j'ai fait un rapport il y a déjà un an sur les exonérations de charges patronales qui a abouti à des éléments de réduction des exonérations sur les hauts salaires parce que ça ne crée pas d'emplois et ça n'améliore pas la compétitivité des entreprises. Bref, il y a beaucoup de choses à faire.
Est-ce qu'il faut taxer, en un mot, est-ce qu'il faut taxer les super profits et les super riches ?
Moi, je ne sais pas définir, on a eu ce débat l'année dernière pendant le débat, ce que c'est qu'un super profit. Si on arrive à identifier des profits qui résultent de facteurs extérieurs qui ne résultent pas de la bonne gestion des entreprises,
effectivement... La crise de la Covid
pour les laboratoires de biologie médicale, à qui on a demandé une contribution parce qu'ils avaient fait beaucoup de profits grâce aux tests. La contribution sur les énergéticiens, on les a déjà mis à contribution, les énergéticiens, parce qu'ils ont fait de gros profits grâce au prix de l'énergie. Si on arrive, il y a une task force qui est en train d'y réfléchir,
mandatée
par Gabriel Attal, si on arrive à identifier ce genre de rentes qui sont indues, c'est-à-dire qui ne résultent pas d'un comportement d'innovation, eh bien, on peut effectivement regarder des contributions. Je suis d'accord.
Merci beaucoup, Marc Ferracci. Ben, vous nous direz si justement sur la question du testing, ça passe ou ça passe pas. Voilà, ça sera intéressant de voir, de suivre votre PPL, comme dit votre projet de loi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Nos experts sont arrivés. Edwige Chevrillon est revenu en plateau. Rebonsoir Edwige. Emmanuel Lechypre est là. Bonsoir Emmanuel. On commence avec votre interview de Marc Ferracci, évidemment en plein dans l'actu avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il n'est pas complètement d'accord sur ce qui est en train de se dérouler. Bon, il dénonce quand même à demi-mot, mais le conservatisme du patronat. Et lui,
Qu'à demi-mot, même.
Et mercredi, enfin, donc après-demain, lui, il propose une proposition de loi sur le testing. C'est-à-dire, vous savez comment ça fonctionne, ça va marcher pour les boîtes de nuit, et ben là, maintenant, ça sera pour les entreprises, pour savoir si oui ou non, elles discriminent les seniors. Et à quitte à avoir derrière du name and shame. Et lui, il propose un bonus-malus sur l'emploi des seniors. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est là, ça peut toucher le chiffre qui sort, et France Stratégie, j'avais oublié ce chiffre, 150 milliards ça devait être chiffré en 2016, il faut revoir, mais enfin en tous les cas...
Oui, sur toutes les discriminations.
Toutes les discriminations, et notamment la discrimination des seniors. Mmh. Ce qu'il dit, c'est le manque d'emploi qui, là, coûte le plus cher, et c'est là où on pourrait trouver des économies. Et puis après, sur cet accord-là, et sur la nécessité ou pas ensuite d'une réforme de l'assurance chômage, bah, il n'est pas d'accord avec son Premier ministre, si j'ose dire, parce qu'il est quand même vice-président... Emmanuel est content. Vice-président du groupe
enfin,
Renaissance.
Des gens raisonnables.
Lui, il dit il faut une réforme, mais c'est pas sur la durée d'indemnisation. Mmh, ouais. Lui, c'est la durée qui ouvre les droits.
C'est ça, la durée d'affiliation.
Ouais. Qui ouvre les droits à cette indemnisation. Mmh. Parce qu'il dit là, à la limite, les seniors, ils sont déjà en place. Donc, bah, c'est très bien. C'est, bah, ils vont être obligés de rester en place. Enfin, ils vont être maintenus dans l'entreprise. Enfin, en tous les cas, c'est ça la volonté et c'est ça qu'il faut obtenir. Si par contre vous durez, vous raccourcissez la durée d'indemnisation, bah, à ce moment-là, les gens qui sont très seniors, très éloignés de l'emploi depuis longtemps, bah, pour lui, c'est très compliqué de retrouver un job. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes en dehors du système de retrouver un job.
Oui, bien sûr. Voilà. Emmanuel, ça vous paraît plus pertinent, effectivement, de durcir. On rappelle qu'il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour pouvoir toucher les allocations. Et Marc Ferracci rappelait que chez nos voisins européens, c'est plutôt 12 mois. Un jour travaillé pour 2 jours de chômage. Ça vous paraît plus pertinent comme critère l'affiliation que l'indemnisation ?
La durée de l'indemnisation.
Alors, oui, c'est sans doute plus pertinent, notamment pour les seniors, effectivement, comme l'a expliqué Edwige. Après, je crois que, quelle que soit la réforme paramétrique qu'on fera sur l'indemnisation du chômage, il faut quand même considérer que ce qu'on pouvait attendre de ces réformes incitatives pour retourner au travail, je veux dire, 80% du chemin a déjà été fait dans les réformes précédentes. C'est-à-dire que, honnêtement, quand on se replace 3-4 ans en arrière, on se dit oui, effectivement, la générosité de notre système d'indemnisation du chômage explique en partie qu'il y ait un certain nombre de chômeurs plus élevés en France qu'ailleurs, explique en partie le chômage des seniors. Là, on a quand même fait beaucoup. C'est-à-dire que le gain marginal à chaque fois qu'on fait une réforme de l'indemnisation du chômage, et que les vraies raisons qui expliquent encore qu'il y ait un chômage plus élevé en France qu'ailleurs, elles sont multiples et elles ne tiennent pas qu'à ça. Moi, je trouve quand même assez cette obsession sur l'indemnisation du chômage.
Elle est aujourd'hui
excessive. Après, regardez dans les entreprises.
Pas que des seniors, Edwige, puisque là, la lettre de cadrage que m'a envoyée Gabriel Attal, là, il y a la négo en cours des partenaires sociaux sur les seniors.
Oui, mais le gros problème, il est sur les seniors.
Comment ?
Le gros problème, il est sur les seniors en France.
Ah oui, non, mais sauf que là, le tour de vis, il va être général. Dans la quatrième réforme de Gabriel
Attal. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas résolu tout le problème de l'incitation à reprendre un emploi qui est encore aujourd'hui trop faible et on retrouve trop de gens qui finalement gagnent mieux leur vie à ne pas travailler qu'à travailler. Et ça, même si on a fait des efforts
en ça plaide pour une réforme. Emmanuel, ce que vous
dites. Oui, mais pas de l'indemnisation. C'est pas ça le problème. C'est pas l'indemnisation du chômage qui est en jeu. C'est par exemple tout ce dont vous pouvez avoir
une prime d'activité.
Oui, c'est ça.
Vous perdez comme avantage.
Et tout ce qu'il faut dépenser en plus. Et c'est là où ça va pas. Et ça, c'est pas lié à l'indemnisation du chômage.
Ça, c'est la désmicardisation.
Oui. Voilà. Et donc. Donc je pense qu'il y a à aller vers ça. Il y a encore tout ce qui concerne le chômage de mobilité. Et c'est vrai que c'est compliqué de changer la mentalité dans les entreprises. Quand vous voyez les études qui s'alignent les unes après les autres, dans une entreprise sur deux, les RH disent qu'elles ont reçu explicitement la consigne de privilégier finalement les CV des gens plus jeunes que les CV des seniors, que les augmentations
entre 30 ans et 45 ans
pour les seniors, il y en a de moins en moins.
La formation,
etc. Et alors même cette étude là qui est sortie la semaine dernière,
oui. 30%,
en gros, c'est les seniors, c'est comme les centrales nucléaires, quoi. Vous trouvez que c'est formidable, mais vous en voulez pas dans votre entreprise.
Elle a 30%. Il y a 30%.
30% voilà. Des salariés, 40% des cadres qui disent ouais, les seniors dans l'entreprise c'est super, mais dans la nôtre non.
Ouais, c'est ça.
C'est pas adapté à notre secteur, c'est pas pour nous.
Oui, mais
ils savent pas trop utiliser les nouvelles techno, etc.
C'est très français et qu'il y a un côté très culturel. Dans les entreprises françaises, chez les DRH, on voit bien qu'il y a un blocage systématique, même dans les algorithmes, parce qu'il y a des tas d'entreprises qui recrutent un peu grâce à des algorithmes, parce qu'elles sont submergées par le nombre de CV. C'est assez étonnant, quoi.
Non, mais c'est sûr que quand vous avez raisonné comme une pompe refoulante pendant 30 ans, se transformer en pompe aspirante, ça demande une petite révolution.
Comme vous dites, c'est culturel. Le gouvernement a réussi à faire changer l'image des apprentis. Peut-être que maintenant, il va réussir à faire changer l'image des seniors. Parce que c'était la même question, hein, c'était culturel.
Question, et ça l'a fait sourire, je le pose aussi à Marc Ferracci, c'est de dire... Moi, je veux bien, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de jeunisme quand même incroyable de la part du président qui a bloqué certaines nominations en trouvant que les personnes étaient trop âgées ? Mmh. Il a nommé, il se vante d'avoir été le plus jeune président de la République, très bien, mais d'avoir nommé le plus jeune président, premier ministre, 34 ans. Là, il y a le non-renouvellement d'Augustin de Romanet à la tête d'ADP parce qu'il a 63 ans. Ça va être idem pour toute une série de grands patrons à la tête d'entreprises publiques ou semi-publiques. Donc, il a aussi, il nomme que des gens qui ont entre 35 et 40 ans.
Oui, alors, je pense malheureusement qu'Edwige, c'est pas le seul critère.
Non, mais oui, je rentre pas dans les autres critères. Je vous les laisse, Emmanuel. Je vous les laisse.
Non, mais je pense que ce critère de l'âge, malheureusement, il est secondaire par rapport aux autres critères qui sont les relations que ces futurs gens importants entretiennent avec Emmanuel Macron. Vous retrouvez quand même des proportions assez substantielles de gens avec qui il a été, soit à l'ENA, etc., dans les nominations.
Oui, c'est réseau, tous ces réseaux.
Il a plus que des jeunes, mais ce que fait tout le monde, hein.
Oui, mais
plus que des jeunes, il a tendance à nommer les gens qu'il connaît et à qui il pense confiance. Qu'il peut faire confiance.
En tout cas, un dernier point sur l'assurance chômage. Toute la polémique, c'est de savoir si c'est une réforme d'économie ou une réforme d'attractivité.
Ah, voilà.
Lui dit il ne faut pas faire cette réforme pour faire des économies.
C'est ce qu'il a dit. Il disait qu'il a dit ça au premier.
On reproche beaucoup ça à Gabriel Attal.
Exactement. Et c'était très mal présenté, en fait.
Ouais, voilà. Et puis, il y a quand même un point... là.
Pas comme les retraites, hein, à l'époque, d'ailleurs.
Et puis, il y a quand même un point qu'on ne soulève pas trop, mais qui est quand même très étonnant. C'est-à-dire que si on décide de diminuer, par exemple, les allocations chômage, d'une façon ou d'une autre, quid de nos cotisations ? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on va toujours payer le même montant de cotisation ?
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que si on diminue le prix au final, est-ce que nous, les prélèvements... Je sais pas, moi je croyais qu'on avait un gouvernement qui voulait redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Donc je sais pas, si d'un côté on baisse le coût de l'indemnisation du chômage, il serait peut-être normal qu'à l'autre bout, les salariés profitent d'une baisse des cotisations. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ?
Eh ben c'est l'État qui va la piquer.
Hein ? Ah bah oui, ça je pense que...
La cagnotte.
Ça, je pense que oui. Mais là, il y a quand même une petite entourloupe.
Petite entourloupe, en tout cas, on verra bien ce que donnera s'il y a de la fumée blanche ou pas à l'issue de la réunion emploi senior.
Et demain, François Omri, le patron de la CFE-CGC. Grande gueule, toujours à regarder.
Et en même temps, le fait qu'il y ait cette réforme de l'assurance chômage qui arrive rend quand même un peu caduque, de toute façon, l'accord qui sera éventuellement.
Oui, tout à fait. Mais enfin bon, dans le rapport de force.
Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose.
Non, ça c'est sûr.
Oui, sauf qu'ils ont quand même les partenaires sociaux, ils ont un couteau sous la gorge. Parce que s'ils n'ont pas d'accord. Eh ben, c'est encore une faiblesse supplémentaire vis-à-vis du gouvernement.
Puisqu'on parle d'accord, cette fois, on va se plonger dans l'actualité des entreprises. Mathieu Pechbertin's en plateau. Rebonsoir, Mathieu. Pour parler du sujet favori d'Emmanuel Le Chypre, Atos.
Le feuilleton Atos.
Et un accord qui doit être trouvé donc entre la direction de l'entreprise et ses créanciers. La réunion se tient en ce moment même, Mathieu, parce que là, on rentre vraiment dans le dur du dur de la restructuration de la dette avant un accord qui doit être présenté demain matin.
Alors, demain matin, en tout cas, sera annoncé le plan de la société. Les créanciers, ils vont d'abord l'étudier. Mais l'idée, c'est effectivement, Atos présente donc ce soir, là, en ce moment même, ses créanciers. Elle dévoilera au public, en tout cas aux investisseurs, demain matin, son plan de restructuration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entreprise a 4,5 milliards d'euros de dettes. Elle ne pourra pas les rembourser. Il y en a à peu près 80% à rembourser d'ici un an. Ouais. Et donc, cette dette, il va falloir en effacer une partie, tout bonnement et simplement, comme c'était fait dans beaucoup de restructurations.
Ça, c'est admis, pour le coup. Il y a plus de débat là-dessus, quoi.
Le suspense, c'est combien ? Est-ce que c'est la moitié de la dette ? 50% ? 40%, 55%,
la dette va être restructurée, ça.
Et très fortement. Ouais. Et il y aura une annulation, un effacement massif de cette dette. Et en contrepartie, les autres créanciers devront rééchelonner les dettes qui seront prolongées sur peut-être 2-3 ans. Ça, c'est ce qui va, en tout cas, déboucher des négociations avec les créanciers. Ça va durer environ 4 mois. Puisque, je le rappelle, Atos est dans une procédure judiciaire de conciliation avec la nomination d'un mandataire, d'une mandatrice ad hoc, d'ailleurs, Hélène Bourboulou. Ensuite, Atos, pour faire face à ces nouvelles dettes, devra aussi être renflouée. Donc la société va devoir dire demain
de combien elle a besoin,
exactement. Alors, les chiffres varient selon les scénarios, encore une fois, entre 500 millions, 1 milliard pour les plus pessimistes. Je pense que c'est plutôt dans la fourchette haute, mais effectivement, Atos devra faire une augmentation de capital massive, sachant que la société vaut environ 200 millions d'euros en bourse aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que les repreneurs se bousculent pour injecter ces centaines de millions d'euros ?
Ah bah il y en a un, oui.
Donc voilà, il y en a un.
Et le titre du coup, après
pour le moment, il y en a un et un seul qui est officiellement déclaré, c'est le premier actionnaire d'Atos, c'est une société qui s'appelle OnePoint, un fondateur qui commence à être bien connu, David Layani, qui lui pousse comme un forcené depuis plusieurs semaines pour essayer de s'imposer à la fois chez Atos, auprès des investisseurs, des créanciers.
Et ouais, mais il peut mettre autant d'argent, hein,
il peut mettre. Il a été alors et comme il n'a pas d'argent, enfin. Il en a très peu par rapport aux besoins.
Lui-même.
Il s'est déjà endetté par rapport au fait d'avoir acheté 8% du capital d'Atos.
Voilà, il a un petit renfort de cavalerie. Là.
Il a besoin. Lui dit qu'il peut investir environ 400 millions d'euros dans Atos, sachant qu'il faudra peut-être le double. Et donc son idée, en tout cas, c'est évidemment d'être adossé à un investisseur financier qui l'a rejoint hier, qui s'appelle Walter Butler, qui est bien connu dans le capitalisme français pour avoir racheté beaucoup d'entreprises depuis une vingtaine d'années. À la fois des sociétés en redressement, donc où il y a eu beaucoup de restructuration, et il y a aussi eu des entreprises qu'il a développées comme un fonds d'investissement, on va dire classique, avec des acquisitions. Donc il y a un peu les deux volets, mais c'est vrai qu'il a une image de redressement, de restructuration d'entreprise. On n'a pas de détails encore aujourd'hui sur ce qu'il est prêt à mettre, comment, avec David Layani, parce qu'il faut attendre de savoir ce dont la boîte a besoin, à la fois pour réduire sa dette et son capital. Et puis dernière chose, c'est un peu long, mais pour être complet. Il y a une activité à part dans Atos, dont on parle beaucoup ici, évidemment, les activités dites de souveraineté, en tout cas pour l'État français, ils les considèrent comme telles. C'est des activités de supercalculateurs, c'est ces ordinateurs extrêmement puissants qui sont notamment utilisés par l'armée française, par beaucoup d'entreprises publiques dans le secteur de la défense.
Et dans le nucléaire.
Et puis la cybersécurité. Et ces activités-là, l'État veut qu'elles restent françaises, adossées à un groupe, en tout cas, ou public, ou l'État est actionnaire. C'est pour ça qu'Airbus avait regardé cette activité, ils ont jeté l'éponge. Aujourd'hui, l'État, on va dire, reprend vraiment le dossier en main. C'est Bercy qui véritablement reprend, en tout cas, la gestion de ses activités, de ses activités. Ils sont en train de recruter une banque conseil pour les épauler. C'est directement géré par l'agence des participations de l'État à Bercy. Mmh. Et ils sont en train de tirer la main du groupe Dassault Aviation, dont l'État est très proche, évidemment, pour essayer de les reprendre.
Oui, voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le communiqué qu'on a reçu hier, donc de Walter Butler et fait aussi de David Layani, c'est que tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, est un dossier qui les intéresse beaucoup, puisqu'ils veulent créer, je crois, un géant, justement, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, sachant que Walter Butler, il avait racheté, vous savez, tout ce qui était justement l'intelligence, qu'on peut appeler aussi un peu une forme d'espionnage, mais pas que, le groupe de l'ADI. Donc, c'était un groupe très, très connu à cette époque. Enfin, maintenant, il l'a revendu. Donc, il connaît très bien ces sujets-là. Et visiblement, ils ont aussi cette volonté de créer un grand groupe dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Peut-être pas les supercalculateurs, j'ai pas pu mentionner ça. C'est peut-être le point où je ne sais pas. Mais donc là, il y a peut-être à voir un découpage un peu difficile à faire.
Bah oui.
Non, mais là, vous avez raison, c'est que ces activités-là, on part du principe depuis le début qu'elles termineront dans le giron d'un groupe public, parapublic, type Airbus, encore une fois Dassault, même si c'est pas du tout public, c'est totalement privé.
Mais, le
groupe est tellement proche de
l'État,
de l'État français, de par sa les commandes dans le monde de l'armement, qu'on le considère quasiment comme public à tort. Bref, effectivement, David Lagné a toujours dit, lui, qu'il était, par définition, que c'était un groupe français, qu'il était capable de prendre en charge ses activités
sans l'État
souveraines, mais il faut avoir effectivement le tampon de l'État et du gouvernement. C'est ce à quoi il essaie de s'atteler d'ailleurs, mais il faut aussi avoir des sous.
Ouais, ça c'est le point très important.
À la fin, il faut de l'argent, parce que à la fin, ceux qui votent, ce sont quand même les créanciers. Voilà, il faut pas l'oublier.
Bah, évidemment.
Et il faut connaître l'état réel des comptes et de la société.
Alors ça,
c'est ça qui a effrayé quand même beaucoup.
Alors de toute façon,
on le saura peut-être enfin demain.
Je sais pas si on saura tout, parce que je pense qu'on saura jamais tout chez Atos d'ailleurs. Enfin, ça c'est juste mon petit avis. Mais effectivement, demain on saura en tout cas de combien la société a besoin. Je pense qu'on va être un petit peu surpris quand même. Du trou.
Bon, on y verra plus clair à partir de demain matin. Demain, c'est aussi la saison des assemblées générales qui commence.
Le bal des AG,
voilà, c'est le printemps, c'est la saison des AG. On commence demain avec Vinci. Mais le patron qui fait parler de lui chaque printemps
sujet
de sa rémunération, c'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Et on a, pour sa rémunération que certains jugent excessive, et notamment des agences de conseil en vote aux actionnaires, il y en a trois qui sont sortis du bois ce week-end pour appeler à voter contre. Alors je rappelle que c'est purement consultatif, Parce que même si les actionnaires vont compte...
Tu parlais tout à l'heure, et là, c'est Neymar Shim pour les...
Ouais. Il y a deux ans, les actionnaires avaient voté majoritairement contre, mais ça n'avait rien changé puisque Stellantis, le siège, est basé à Amsterdam et que dans le droit néerlandais, même si on vote contre, ça ne change rien. Mais le symbole est là. Et donc là, à nouveau, on appelle à voter contre. Je rappelle que le board propose un package fixe et variable, enfin surtout variable, de 36 millions d'euros.
Ouais. Et jusqu'à 36
jusqu'à
millions.
Jusqu'à 36 millions, effectivement.
On le saura dans quelques années, en fait, combien il touchera, parce que c'est des...
Oui, il y a des bonus en action.
Non, je le dis, c'est juste parce que
c'est pas d'argent qui va tomber du jour au lendemain. C'est important de le préciser.
Ouais.
Que ce soit à court, moyen ou long terme, est-ce que 36 millions d'euros, c'est justifié pour rémunérer le patron de Stellantis, qui se lance?
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas de juste niveau économiquement ou moralement. Le seul niveau à partir duquel le salaire d'un patron pose problème, c'est quand ça pose problème, effectivement, aux salariés et au climat social dans l'entreprise. Après, il n'y a pas de morale dans tout ça. Regardez, il y a des boîtes où le salaire du patron est extrêmement élevé. Il n'y a jamais de débat. Si vous prenez, chez Dassault, justement, un des patrons,
Je pense pas qu'Éric Trappier soit 36 millions, hein, de la ligne.
Non, mais ils Dassault sont système.
Non, mais attendez, ils ont.
Ah, Dassault système, oui, mais là, parce que c'est différent.
Oui,
c'est-à-dire
d'accord.
Il y a eu des stock options au tout départ.
Non, oui, mais sauf que personne se plaint de la rémunération, rémunération. Donc, c'est là où ça peut poser problème. Après, il y a des explications. Hein,
Mais pardon, sur l'argument social, c'est précisément celui des agences.
Oui.
Elles disent, on va le payer cette somme-là, même si encore une fois, c'est sur plusieurs années, au moment où il licencie des milliers de personnes.
Mais oui, sauf que c'est pas à elle de le décider. C'est-à-dire que c'est aux gens de l'entreprise de décider.
C'est précisément social, là, qui est
voilà, voilà. Après,
ça va crisper.
Il faut rappeler juste quand même une chose, c'est que si le salaire des patrons a augmenté aussi considérablement, multiplié par 7, par 8 depuis 40 ans, c'est pour une raison très simple, c'est aussi que l'étoffe financière des entreprises qu'ils dirigent a été multipliée à peu près d'autant. C'est-à-dire que c'est exactement proportionnel.
D'accord.
Donc ça veut dire que c'est pas plus compliqué aujourd'hui de diriger une grande entreprise comme General Motors ou comme Boeing. C'est juste que l'enjeu financier est 6 ou 8 fois beaucoup plus important.
Ouais.
Et que quand vous regardez ce que pèse le poids de la rémunération du patron dans les comptes de l'entreprise, c'est un poids qui est à peu près constant au fil des années, c'est toujours le même. Donc il faut tenir compte de ça. Après, est-ce qu'il est mieux payé que les grands patrons du secteur
dans l'automobile américaine?
Il a un salaire à l'américaine.
Est-ce que il y a un mercato possible? Il se trouve qu'on est quand même sur un des secteurs dans lesquels il y a potentiellement un mercato possible. Cette histoire,
les
grands patrons, c'est comme les grands champions, etc. Il se trouve que sur le secteur de l'automobile, oui, c'est pas impossible qu'il y ait ça. Donc voilà, ça fait...
Surtout, c'est qu'il a fait une restructuration absolument incroyable. C'est gentil, 36 millions d'euros, je trouve ça... énorme. Bon, on est bien d'accord.
Mais même lui, vous lui en donnez la moitié, Edwige, ça ne change pas sa vie, vous voyez.
Non, surtout, c'est quelqu'un qui vit quand même relativement simplement. Cela dit, il a fait un job incroyable. Quand vous voyez la réussite, quand vous voyez là, la publication des marges, on en parlait même avec Luca de Meo, le patron de Renault, qui lui aussi se fait augmenter, mais enfin pas dans les mêmes proportions. La marge, c'est le double de celle de Renault. Et donc il me dit, je lui ai envoyé un petit SMS de félicitations parce qu'on voit son niveau de marge. Donc si vous voulez, c'est quand même, il y a 14 marques, il y a combien de marques?
Quasiment 14 marques.
Il a quand même fait
Donc vous dites que c'est pas volé.
Moi je dis que c'est pas volé, mais bon, je trouve qu'en tous les cas ça.
Non, mais alors moi je me prononcerai absolument pas sur savoir si c'est volé ou pas. Et ce qui est important, je pense, c'est pas de se référer, on va dire, est-ce un niveau suffisant ou pas au niveau de la société, au niveau sociétal. Ça, chacun se fera son pion. Mais si on reste chez Stellantis, si on regarde bien les critiques, elles viennent pas seulement des salariés ou des syndicats, pour qui le jeu est assez habituel de critiquer la rémunération des patrons. Elles viennent de sociétés, de conseils pour les investisseurs, donc de beaucoup d'actionnaires. Et ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils envoient aussi un message qui n'est pas entendu, parce que ça fait plusieurs années qu'ils le disent, au conseil d'administration de Stellantis, qui est censé les représenter. La société n'appartient pas à Carlos Tavares et un petit peu à John Elkann, l'héritier d'Agnelli, mais il appartient aussi aux autres actionnaires. Et ces autres actionnaires disent certes, Stellantis a fait 18-20 milliards d'euros de bénéfices.
Quasiment 19,
cette année, 18, pardon. Mais au regard du corps social de l'entreprise et de ce qui se passe, et notamment, comme l'a dit Edwige, la restructuration qui vont arriver en Italie, vu le climat social en France, le climat social en France chez Stellantis n'est pas bon. Il faut lui dire.
Oui.
Donc,
C'est difficile.
Mmh. Appeler les syndicats, ils vous le diront. Mmh. Bon. Il faut mettre ça en regard. Quand on regarde les autres exemples, parce que Tavares, évidemment, il concentre. Il a réussi, il a créé un groupe mondial. Il y a 10 ans, il a repris une boîte qui était
quasiment en faillite.
Non, mais très bien. Mais quand on regarde les critiques dans les autres sociétés, effectivement, le patron d'Assosystème, dont on parle à la fois souvent, mais sans qu'il y ait de problème. Alors, lui, il a des montants comparables, on va dire autour de 20 et 30 millions d'euros. Ouais. Ça fait 25 ans qu'il était chez Dassault-Systèmes, qu'il a contribué à la fois à créer et à développer. Il en est actionnaire.
C'est vrai qu'il fait sans doute meilleur être salarié de Dassault-Systèmes que de Stellantis.
Et surtout, allez voir les politiques de rémunération chez Dassault-Systèmes, qui, depuis des années, ont des augmentations de salaire importantes, sans être mirobolantes, mais importantes, ce qui n'est pas le cas chez Stellantis, où il y a des participations d'intéressement quasiment...
C'est un métier beaucoup plus capitalistique.
C'est beaucoup plus... Non, mais cette société Dassault-Systèmes paye mieux ses ingénieurs, et les ingénieurs d'Assosystèmes ne se plaignent pas.
Ce n'est
pas
le cas.
On peut prendre plein d'exemples. L'année dernière, la rémunération d'Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui n'était pas comparable en termes de montant absolu, mais a été votée à 58% par les actionnaires, ce qui est extrêmement faible.
Ouais, enfin, très juste,
pourquoi Même raisonnement. Vous êtes chez Carrefour, vous avez un salaire, peu importe, qu'il soit 10 ou 12 millions d'euros.
Non, mais Carlo Tavares, il a fait une restructuration réussie qui n'a pas encore réussi Alexandre Bompard.
Le problème, c'est que dans une société de la grande distribution qui fait très peu de marge, où c'est très concurrentiel, où les salariés, une partie des salariés sont effectivement très, peu payés, c'est toujours ça qui revient. C'est à l'intérieur de l'entreprise. Donc,
l'échelle des salaires.
Bon. Les investisseurs envoient quand même un petit message, évidemment à Carlos Tavares, mais aussi au conseil d'administration de Carlos Tavares.
Le mot de la fin,
dire, faites attention.
On divise le salaire de Tavares par deux et on divise les profits par deux. Vous préférez quoi?
Mais non, le sujet, c'est...
Je pense que c'est des problèmes de riches. Ils sont assis sur leur montagne de dividendes et là, ils peuvent se permettre de faire les fines bouches. Mais le jour où les profits seront plus...
Le sujet des investisseurs, c'est de dire à Tavares, si vous voulez garder vos 30 millions, faites attention à la base. Bon. Et comme Tavares s'auto-proclame...
Il y a une prime de 4 000 euros en moyenne versée au...
Regardez, il y a encore deux ans, on parlait souvent du salaire de Patrick Pouyanné chez Total. On n'en parle plus.
Pourquoi il a fait des
primes? Ils ont fait en sorte qu'il y ait de la redistribution plus importante pour les salariés.
Il y en a toujours eu chez Total.
Encore 100 actions gratuites distribuées la semaine dernière.
C'est pas le même univers.
Allez, vous voyez, le débat là est déjà enflammé. C'est le début du printemps. Merci à tous les trois. Edwige Chevrillon, Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre et donc François Omril qui sera à votre micro demain à 18h10.
Oui, absolument, pour voir s'il y a un accord. Et quel accord? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Parce que il sert à rien.
Et sans langue de bois, comme toujours, avec le patron de la CFE-CGC. Allez, on marque une pause. C'est déjà la fin de la première heure de Good Evening. Vous nous retrouvez en replay, en podcast, sur l'appli BFM Business. Et nous, on se retrouve en direct dans deux minutes pour la deuxième heure de Good Evening. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, un petit peu plus de 19h. Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la deuxième heure de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h sur BFM Business et dans l'actualité ce soir, eh bien, on a cette réunion à haute tension, réunion compliquée entre Bruno Le Maire et le ministre chinois du Commerce de passage à Paris aujourd'hui. On va évidemment parler voitures électriques, panneaux solaires ou encore importation de cognac en Chine. La France, Bruno Le Maire notamment, plaide, vous allez l'entendre, pour une préférence européenne dans les appels d'offres publics, référence évidemment à la Chine, mais la France doit aussi ménager la Chine à un mois de la visite de Xi Jinping en France. Ce sera début mai. On en parle ce soir avec nos experts Cyril Lachèvre, fondateur de l'agence de communication Silence, Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'Alternative Économique et Charles-Henri Daubigny, managing partner de Reputation Age. Avec eux, on va essayer de répondre à cette question. On en parlait il y a un instant avec nos experts qui revient chaque année au même moment, au printemps. Est-ce que le patron de Stellantis est trop payé? Est-ce que 36 millions d'euros, c'est justifié pour rémunérer les efforts et les résultats de Carlos Tavares à la tête de Stellantis? On en parle avec nos experts en direct jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Et
Et avant de parler de Stellantis, on va d'abord parler d'Atos et de cette réunion cruciale pour l'avenir de l'entreprise. Bonsoir Mathieu Pechberti. Atos réunit en ce moment même ses créanciers pour leur présenter son plan de sauvetage qui sera dévoilé demain matin avant bourse. On sait qu'il y a plus de 4,5 milliards d'euros de dettes à restructurer, mais on sait déjà qu'une grosse partie de cette dette va être annulée et qu'une augmentation de capital massive est inévitable, Mathieu.
Oui, exactement. Cette réunion est très importante puisque les créanciers vont enfin apprendre à quelle sauce ils vont être mangés finalement. Les banques et les fonds d'investissement créanciers d'Atos, la société va leur annoncer son plan de restructuration. Donc effectivement, comment elle voit l'avenir pour redevenir rentable ou en tout cas fonctionner comme une entreprise normale qui a perdu plusieurs milliards d'euros sur ces trois dernières années. Il y a effectivement un peu plus de 4,5 milliards d'euros de dettes. Les investisseurs globalement et les créanciers s'attendent à évidemment à une annulation de la dette très très forte, environ la moitié. On n'a pas de chiffres aujourd'hui, il y a différents scénarios, mais c'est en gros ce à quoi ils s'attendent, et le reste des dettes serait refinancé, donc rééchelonné sur plusieurs années, et en contrepartie il y aurait effectivement une augmentation de capital. Là encore, les chiffres varient beaucoup, on est entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour les plus pessimistes, et les repreneurs pourront ensuite se manifester auprès de l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou. Oui. Le premier d'entre eux qui se manifeste depuis maintenant plusieurs semaines, c'est David Layani. Oui. Le fondateur de OnePoint, premier actionnaire d'Atos, qui vient de s'associer avec l'investisseur français Walter Butler.
Voilà, alors ça c'est l'annonce des derniers jours. On a effectivement ce tandem Butler-Layani pour la reprise et la relance d'Atos. On a aussi, d'après vos informations, l'État et Dassault qui sont à la manœuvre autour des activités souveraines d'Atos.
Oui, exactement. Vous savez que Bruno Le Maire avait dit qu'il surveillait et qu'il allait essayer de construire une solution nationale il y a 15 jours autour de ses activités, à la fois de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Ces contrats très importants avec notamment l'armée française pour la dissuasion nucléaire, pour les sous-marins, même pour les centrales nucléaires de Neuf. Et donc, il faut qu'il reste français et en tout cas proche de l'État. Airbus avait regardé, a abandonné, et donc maintenant, l'État reprend les choses en main. C'est directement l'agence des participation de l'État, l'administration de Bercy qui se plonge dans le dossier et qui le reprend en main, orchestre cette solution nationale et essaye, et en tout cas pousse le groupe Dassault Aviation, évidemment très proche de l'État dans l'armement, pour être à la manœuvre. C'est une solution qui ne plaît pas forcément à Dassault Aviation à la base, qui ne souhaite pas reprendre ses activités, mais en tout cas une source proche du groupe nous dit clairement qu'il fera un effort pour que ses activités restent françaises dans la mesure où elles entrent dans la conception du Rafale.
Merci beaucoup Mathieu. 19h06, on poursuit avec cette mise en garde des États-Unis et de la France face à la déferlante de produits chinois. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se sont exprimés tous les deux aujourd'hui sur le sujet. Et vous allez voir que les deux camps ont le même argument face à la concurrence chinoise. Timothée Marozet.
Tous unis face à la Chine, c'est ce qui ressort à quelques heures d'intervalle entre les discours américains et français. À Pékin d'abord, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que les États-Unis ne laisseront pas leurs industries se faire étouffer par les produits chinois à bas coût.
Le marché mondial est inondé par des produits chinois au prix artificiellement bas, ce qui remet en question la viabilité des entreprises américaines et étrangères. Il y a comme un air de déjà-vu.
À Paris, même son de cloche du côté de Bruno Le Maire, autour de ses homologues italiens et allemands. Il souhaite que l'Europe montre les dents en simplifiant ses normes et en augmentant sa compétitivité. Il dénonce un retard européen face à la Chine.
La Chine et les États-Unis ne nous attendront pas. Et la Chine et les États-Unis ne nous feront aucun cadeau. Nous sommes à un moment critique entre le protectionnisme américain et le risque de voir arriver sur le marché européen des produits chinois à prix cassé.
Le ministre de l'économie a rencontré ensuite le ministre chinois du commerce de passage à Paris. Au cœur des discussions, les voitures électriques chinoises. Là encore, un point de tension depuis plusieurs mois, l'UE ayant décidé de les taxer lourdement pour concurrence déloyale.
Timothée Marouzet, bientôt 19h08. On poursuit avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors. Bonsoir Caroline Morisseau. Réunion de la dernière chance, les syndicats et le patronat sont réunis depuis 9h du matin pour tenter d'arracher un accord, mais visiblement, on n'y est toujours pas, Caroline.
C'est ça, chacun campe pour l'instant sur une position très divergente. Les organisations patronales veulent toujours absolument instaurer un nouveau CDI senior, enfin qu'ils ont rebaptisé pour faire passer la pilule, mais réservé aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans et qui leur permettrait de rompre ce contrat une fois la retraite à taux plein du salarié atteint. Les syndicats n'en veulent absolument pas. Pour eux, c'est une ligne rouge. Derrière, le MEDEF et la CPME refusent toujours d'instaurer le fameux compte épargne temps universel qui permettrait aux salariés de stocker des congés et de les conserver d'une entreprise à l'autre. Autre sujet, autre divergence, le patronat est prêt à ce que l'emploi des seniors devienne un sujet de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Là, les syndicats demandent à ce que ce soit dans toutes les entreprises des 50 salariés, puis surtout, ils veulent que soient instaurées des pénalités pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, ce qu'évidemment le patronat refuse.
Bon, donc en gros, on est d'accord sur rien, et cet après-midi encore, visiblement, on était loin de trouver un consensus.
C'est ça, les discussions sont laborieuses, nous ont dit les syndicats il y a encore quelques heures, donc les discussions pourraient s'éterniser jusqu'à tard dans la nuit, et c'est à ce moment-là que chacun pourrait lâcher du lest, en tout cas ce qu'espèrent les responsables syndicaux. On sait que c'est souvent dans la dernière ligne droite que se conclut un accord, et on sait aussi que patronat comme syndicat ont tout intérêt à s'entendre, parce que de cet accord dépend derrière le fait que le gouvernement valide l'accord sur l'assurance chômage qui a été conclu entre les partenaires sociaux en novembre dernier. Or, dans cet accord, le patronat a obtenu une baisse des cotisations de 0,05%, ce qui est peut-être de nature à les convaincre de conclure un accord sur l'emploi des seniors. Et puis cela enverra évidemment un très mauvais signal à un moment, un signal de divergence, d'incapacité à s'entendre des partenaires sociaux, à un moment où le gouvernement promet une nouvelle réforme de l'assurance chômage et où il menace régulièrement de reprendre la main sur la gouvernance de l'Unédic.
Merci beaucoup Caroline. 19h10, on parle maintenant d'immobilier. Bonsoir Léo Dumas. Léo, le réseau Century 21 vient de publier son baromètre du premier trimestre et visiblement le marché sort un peu la tête de l'eau avec des prix qui continuent de baisser, Léo.
C'est la première bonne nouvelle, moins 3% environ sur un an au niveau national. Et si on regarde seulement à Paris, c'est moins 9%. On est désormais à 9 100 € le mètre carré. En fait, les prix grimpent dans trois régions uniquement, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Et ils baissent partout ailleurs. Deuxième raison d'espérer pour le marché immobilier, la demande semble un peu plus vive. Les indicateurs de Century montrent que les acquéreurs relancent leurs projets et leurs démarches. Mais ce n'est pas encore assez pour redresser le marché. Les premiers effets positifs de ces chiffres sont attendus pour la fin d'année, car au premier trimestre, même si elle ralentit, la chute des ventes se poursuit, moins 11% sur un an. Et ça, c'est aussi parce que la correction des prix n'est pas encore suffisante au regard des taux d'intérêt toujours élevés. On est à 3,9% en moyenne aujourd'hui. Pour retrouver un niveau comparable de taux, il faut remonter en 2012. Et en 2012, Century 21 nous dit que les biens étaient entre 17 et 19% moins cher qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Léo. Et puis pour finir, on va vous parler du groupe qui fait l'actualité aujourd'hui dans le secteur des cosmétiques. Il s'agit du groupe catalan Puig. Ça s'écrit P-U-I-G, mais ça se prononce Puig. Un groupe qui détient entre autres les marques Rabanne, Nina Ricci ou encore Jean-Paul Gaultier. Le groupe va de record en record depuis 3 ans et il a annoncé ce matin vouloir se coter à la Bourse de Madrid pour lever au moins 2,5 milliards d'euros. Hélène Cornet.
Mi-février, Puig inaugurait une deuxième tour à Barcelone pour doubler la surface de son siège social, symbole de la réussite de ce groupe familial centenaire. Cela fait plusieurs années qu'il enchaîne les croissances à deux chiffres. Il a réalisé l'an dernier 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 19%. C'est largement plus que les objectifs qu'il s'était fixés en 2021, atteindre les 3 milliards. Dans son portefeuille, une marque se distingue tout particulièrement, Paco Rabanne, qui atteint pour la première fois le milliard d'euros de ventes. Son succès, il le doit à un marché porteur, celui des parfums, mais aussi à une diversification réussie. Il opère en effet dans le maquillage, le soin, la mode, qui à U3 représente 70% des ventes aujourd'hui. S'il fait figure de petit poussé par rapport à des concurrents comme L'Oréal ou Estée Lauder, Puig souhaite se faire connaître auprès des investisseurs. Son patron expliquait l'an dernier que ça obligerait le groupe à une meilleure discipline. La famille n'a pas pour autant l'intention d'en perdre le contrôle.
Hélène Cornet, puisqu'on parle des marchés, on y retourne.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Paris pour la première séance de la semaine. Le CAC rebondit, on gagne 0,72% à 8119 points. Rebonsoir Étienne Brack, vous nous avez rejoint en plateau. Vous allez suivre Pudge désormais pour nous. Comment se passe la séance à Wall Street en tout cas aujourd'hui?
Eh bien, c'est bien plus calme qu'à Paris puisque vous avez trois indices américains qui font du surplace ou presque. Plus 0,1% pour l'indice S&P 500 au-delà des 5200 points. Idem pour le Nasdaq à 16264 points. Quand le Dow Jones est parfaitement stable à 38 917 points. Le tout après une semaine qui a été compliquée notamment pour le Dow Jones la semaine dernière qui a vécu sa pire semaine en l'espace d'un an. Donc après les records que l'on a connus, les nombreux records en début d'année, on a une certaine forme de latérilisation avant bien sûr la BCE jeudi, l'inflation qui est très attendue mercredi aux États-Unis avec Jamie Dimon, aujourd'hui le patron de JP Morgan, qui douche un petit peu les esprits, qui est très prudent par rapport à cette inflation et qui n'exclut pas notamment des hausses de taux pour cette année, hein, alors que le marché voit des baisses de taux. Donc vous voyez, après les records, il y a une certaine forme de prudence actuellement sur les marchés, avant aussi les résultats trimestriels, hein, ça va commencer vendredi aux États-Unis avec le secteur bancaire. À noter que les cours du pétrole baisse après notamment une poussée vendredi, hein, au-delà des 92 dollars pour le Brent pour la première fois depuis 5 mois. Aujourd'hui, c'est une baisse d'1% pour le Brent à 90 dollars quand le WTI, le baril américain, s'échange à 85 dollars. Et puis du côté des valeurs, s'il y en a une à retenir aujourd'hui, c'est Tesla qui gagne un peu plus de 5% au-delà des 173 dollars avec notamment Elon Musk qui a annoncé hier qu'il allait dévoiler un robot taxi.
Oui, c'est vrai.
Sans donner plus de détails. Alors, ça sera au mois d'août,
le 8 août
précisément. Voilà. Mais en tout cas, ça fait rebondir le titre Tesla après un parcours très compliqué depuis le début de l'année.
Ouais, et toujours aussi volatile. Merci, merci beaucoup, Étienne Braque. 19h15, on marque une pause et dans un instant, nos experts arrivent. On débat en direct sur BFM Business jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là en plateau avec nous en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Cyril Lachèvre, merci d'être là. Vous êtes fondateur de l'agence de communication Silence. À vos côtés Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, ancien rédacteur en chef d'Alternative Économique et face à vous, ou avec vous, on verra en fonction des débats. Allez. Charles-Henri Dovigny, bonsoir.
Bonsoir.
Managing Partner de Reputation Edge. Messieurs, on va commencer avec cette séquence, on va appeler ça comme ça, autour de la politique industrielle européenne. Avec d'une part, d'abord ce matin, cette réunion entre Bruno Le Maire et ses homologues allemands et italiens pour fixer un cap pour l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Et puis on en parlera après, Bruno Le Maire qui recevait dans la foulée le ministre chinois du Commerce. Je vous propose d'abord écouter Bruno Le Maire à l'issue de la réunion ce matin avec ses homologues allemands et italiens. Vous allez voir, il appelle à une préférence européenne. On l'écoute.
Le deuxième sujet sur lequel nous continuons de débattre, c'est la préférence européenne. Je le dis, c'est un sujet de débat entre nous, mais sur lequel nous voulons avancer. Moi, je ne constate qu'une seule chose, c'est que le déficit commercial entre la Chine et l'Europe a été multiplié par 3 en 10 ans. Et donc, il faut, à mon sens, nous poser la question de savoir s'il ne faut pas réserver les marchés publics à des produits « made in Europe » ou d'avoir un contenu européen dans les appels d'offres de 40, 50 ou 60%, ou d'imposer des normes de qualité ou des normes environnementales qui soient celles les plus strictes sur les produits dans les marchés publics.
Voilà, des propositions assez claires de Bruno Le Maire. Cyril Lachèvre, une préférence européenne, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
Alors déjà, Bruno Le Maire aurait pu préciser que le déficit commercial français avec la Chine a été multiplié par 8 en 20 ans. Donc c'est bien pire que les x3 de l'Europe.
Ouais.
La réaction européenne est intéressante aujourd'hui, mais il s'est quand même passé quelque chose, je pense, il y a une semaine dans l'esprit des économistes en particulier, avec les déclarations du Premier ministre, un discours du Premier ministre chinois. Alors, il ne pèse plus grand-chose aujourd'hui, le Premier ministre chinois, mais quand même, ces discours sont bien validés, dans lequel il parle d'une croissance, d'une prévision de croissance de 5% cette année, en 2024, et la même qu'en 2023. Et donc, les économistes ont fait un petit calcul avec une économie qui va très mal en interne à cause de l'effondrement du marché immobilier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils misent tout sur les exportations.
C'est ça.
Et là, effectivement, tout le monde se réveille sur les chiffres qui sont assez cataclysmiques si on les regarde froidement, avec des surcapacités énormes de la Chine dans le domaine du solaire.
Ça, on en a parlé.
De l'éolien et autres. Et donc, effectivement, il y a une crainte d'un tsunami et le mot est pas trop fort quand on regarde les stats effrayantes. Ouais. Et donc, quelque part, je vous aurais dit un autre jour que cette réunion à trois de ministres européens industriels, je pense que l'Europe n'est pas en avance sur beaucoup de sujets, mais s'il y en a bien un dans lequel elle a peu de chances d'avancer, c'est l'industrie, parce que vous ne pouvez pas faire plus différent qu'une industrie italienne, une industrie allemande et une industrie française. française. Sauf que là, au-delà des déclarations de Bruno Le Maire...
Bah, c'est un peu l'union sacrée face au tsunami.
Ouais, je pense que, en l'occurrence, la position allemande est peut-être un petit peu, non pas en train de changer, encore une fois, c'est pas aujourd'hui même qu'on le verra, d'autant que Olaf Scholz a dit qu'il allait en Chine à la fin de la semaine.
Tout à fait.
Mais il se passe quelque chose, parce que les Allemands sont en train de réaliser que leur principal client, la Chine, va devenir, ou l'est déjà en train de devenir, leur principal concurrent. Donc effectivement, alors de là à dire protectionnisme européen, je pense qu'on en est très très loin, mais il se pourrait quand même qu'il en
soit
en train
de se
passer quelque chose d'intéressant.
Parce que là, pour le coup, c'est les mêmes armes que les Chinois et les Américains, des subventions, des produits locaux dans les appels d'offres, on joue avec les mêmes armes. Bien plus tard que les autres, mais
oui, on n'est pas tout seul à pouvoir...
Ah oui, bah là, après, il faut se mettre d'accord à 27.
Voilà,
enfin, si déjà on arrive à se mettre d'accord à 3, on aura peut-être presque fait le plus dur, Charles-Henri Daubigny.
Non, là-dessus, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Cyril, et je me dis, enfin, il y a une prise de conscience. C'est très important qu'à un moment ou à un autre, l'Europe se rende compte qu'on vit dans un monde où on a des concurrents, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, plus particulièrement. Là, avec l'IRA, les Américains ont bien montré qu'on allait pouvoir subventionner fortement leur industrie. Donc l'industrie américaine marche à plein régime. Le taux d'emploi aux États-Unis est extrêmement fort. Hein, je veux dire, c'est le plein emploi. Il y a 3% de taux de chômage aux États-Unis. Donc nous, en France, on est quoi, 7,8 taux de chômage. En Europe,
un peu moins, 7,5. Mais bon, ouais, effectivement, c'est pas comparable.
Donc c'est pas comparable. Il faut aussi prendre en compte maintenant aussi la politique de la BCE. Que fait la BCE pour permettre justement à nos entreprises d'investir et de s'industrialiser. Là, c'est le début d'une prise de conscience et je pense qu'il était temps qu'on la prenne. Mais, et après, il y a l'histoire des normes annoncées par Bruno Le Maire et
ses acolytes. Oui, là, c'est le cheval de bataille de Bruno Le Maire et de la Commission européenne aussi qui disent c'est la faute aux normes. On est trop bureaucratique, ça aussi, on a l'air de le découvrir maintenant.
De quelles normes
et donc, du coup, ça nous plombe la croissance.
Mais quelles normes de parle-t-on? Puis à ce moment-là, mettons une réciprocité. Si c'est des normes écologiques que l'on impose à nos industriels, bah, mettons des barrières normatives.
Alors ça, on va en parler parce que c'est le point clé de la proposition, effectivement, du ministre. Mais d'abord, je voulais vous faire réagir là-dessus, Guillaume Duval. Charles-Henri Daubigny dit enfin une prise de conscience. Mais c'est enfin ou trop tard? Enfin, ils ne nous ont pas attendus, nos amis chinois et américains.
J'allais dire justement, mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que c'est très tard. Et en particulier...
Il y a encore une chose à sauver.
Oui, c'est un peu la difficulté, en particulier sur toutes les entreprises du secteur de l'énergie renouvelable, qui sont déjà dans une situation très difficile, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque en Europe, dans l'automobile, qui est déjà dans une situation très difficile. Donc là, il faudrait effectivement un effort majeur. Mais est-ce qu'on est capable, en particulier, de faire le type de choses qu'on évoque à propos de l'IRA? Là, pour l'instant, on est en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de serrer la vis partout sur le plan budgétaire. On a une politique monétaire qui est assez restrictive quand même dans l'ensemble. On ne prend pas le chemin, en tout cas, d'aller au-delà des déclarations. Je pense que Bruno Le Maire en a déjà fait trois ou quatre, une dizaine sans doute, de très similaires, sans qu'elles se soient suivies d'action pour l'instant. Et le problème, c'est est-ce qu'on met les moyens sur la table ou pas? Et là-dessus...
Est-ce que l'Europe a les moyens de mener une politique protectionniste? Les Américains, comme les Chinois. C'est ça, à la fin, comme vous dites le fond du problème.
Sur les 700 milliards de Next Generation EU qu'on avait
C'était le plan de relance européen post-Covid.
Il semblerait qu'il y en ait 500 milliards qui n'ont pas été dépensés pour l'instant. Enfin, c'est ce que je disais ce matin dans la presse. Et on n'est pas capable de donner une suite à ce projet. On est confronté à une guerre qui nous handicape... qui pose des problèmes de sécurité majeurs, mais qui nous handicape aussi économiquement. Et on n'est pas capable, face à cette guerre, de refaire ce qu'on avait commencé à faire face à la pandémie. Alors, est-ce qu'on ira au-delà des grandes déclarations sur ces sujets-là et est-ce qu'on mettra les moyens? Je ne sais pas.
Ouais. Cyril?
L'Europe, par nature, n'a pas été conçue comme ça. Enfin, l'Union européenne a été voulue comme ouverte sur le monde dans le cadre de... Il n'y a qu'à voir la politique de la concurrence qui est menée, qui est probablement la plus sévère au monde. On en pense qu'on en veut, mais c'est la réalité. Pour justement empêcher tout grand groupe d'émerger et pouvoir tenir la dragée haute aux autres super puissances chinoises et américaines. Donc effectivement, ça va bien au-delà même des déclarations d'intention. C'est une remise en cause totale de des fondements sur lesquels on a aujourd'hui bâti cette Europe depuis le traité de Rome. Mais effectivement, le monde a considérablement changé depuis 1957, et donc il va falloir quand même prendre des vraies mesures. Mais regardez déjà les débats sur l'Europe de la défense, qui pourrait être une forme de souveraineté ou d'industrie qu'on pourrait créer nous-mêmes. Je veux dire, on n'a pas du tout la même approche entre les pays. Et pourtant, la guerre est à nos portes. Donc, quelque part, même devant l'urgence, on voit qu'on est incapable de réagir. Donc là...
Et alors, vous disiez tout à l'heure, Charles-Henri, l'angle d'attaque de Bruno Le Maire, c'est l'écologie. Dire, effectivement, on ne peut plus faire entrer sur notre marché des produits qui ne sont pas à nos normes. Décarboner l'Europe ne doit pas tuer notre industrie. Est-ce que c'est le bon angle d'attaque, effectivement, vis-à-vis des Chinois? Ça veut dire très concrètement refuser des bonus aux produits qui ne respectent pas nos normes, comme on le fait sur les voitures électriques, et potentiellement demain sur les panneaux solaires. Là aussi, Bruno Le Maire l'a dit vendredi. Est-ce que l'écologie, ça peut être la bonne trouvaille, la bonne recette pour se défendre?
C'est un début. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tous les cas, il faut... à un moment ou à un autre, avoir ce système de réciprocité. On ne peut pas vivre dans le monde actuel sans cette réciprocité. Sans ça, on va à la catastrophe. Les industries américaines ou les industries chinoises n'ont pas les mêmes règles que nous. Nous, on va s'imposer des super règles écologiques, notamment. On a aussi des super règles sociales, mais bon, ça, on ne va pas y revenir dessus. On en reposera peut-être tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais là, sur l'écologie, c'est quelque chose sur lequel les populations européennes sont quand même, quand on regarde les sondages, assez d'accord pour qu'on progresse.
Oui, là, pour le coup aussi, il y a la prise de conscience.
Pour qu'on progresse. Et il faut que l'ensemble de la planète s'y mette. Et après, on va parler aussi de l'Inde à ce moment-là, parce que c'est aussi un vrai sujet. Donc, c'est l'ensemble, des industries qui doivent respecter à minima des règles.
Guillaume Duval, il y a le fond, ce dont on parle depuis une dizaine de minutes, mais on ne peut pas s'empêcher aussi de penser aux élections européennes dans 2 mois. Est-ce que tout ça, ça ne ressemble pas quand même aussi à de la communication politique, à de l'agitation politique à 2 mois des élections? Ou est-ce qu'il y a quand même fondamentalement là quelque chose qui est en train de changer dans les fondamentaux de l'Europe?
Il y a les deux, c'est-à-dire que effectivement ça a sans doute des visées électorales, mais c'est aussi parce que effectivement la pression sociale et la pression des citoyens européens est très forte là-dessus. Je ne crois pas qu'il faille considérer que l'environnement pourrait être un prétexte pour faire du protectionnisme. C'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Si on veut réellement que les citoyens adhèrent à ce qui est nécessaire en termes de transformation écologique de nos économies en Europe, on doit pouvoir leur garantir que ça n'a être pas leurs emplois et qu'ils vont pas se retrouver submergés par des trucs qui sont fabriqués avec d'autres normes. C'est vraiment la condition de base pour qu'on puisse réussir ça, et il faut absolument réussir ça.
Cyril Lachève, d'un mot pour conclure. Là, c'est un petit peu une feuille de route que donnent les 3 plus grands pays à la prochaine commission. Parce que là, Ursula von der Leyen, elle brigue un deuxième mandat. Est-ce qu'elle a réussi le premier, d'un point de vue économique et industriel? Ou est-ce que quand on voit ce genre de conférence de presse, on se dit que...
C'est un ratage total. Enfin, je veux dire...
Ah oui, d'accord.
Je prends un exemple. La guerre en Ukraine a commencé il y a 2 ans. On a eu un choc énergétique d'une violence rare. On a beaucoup parlé de, il faut faire une politique énergétique européenne. Vous en avez vu l'once d'un début d'une politique énergétique.
On a les achats en commun de gaz.
Non, moi je veux dire, sur l'histoire...
On est arrivé à se défaire la dépendance russe au gaz. Pour le coup.
Oui, mais enfin, c'est vraiment un des domaines où une stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait sur... Quels sont les choix? Enfin, on a l'impression de revenir en permanence en arrière. Non, simplement sur l'écologie, reprenons un exemple très concret. L'obligation d'avoir que des voitures électriques à partir de 2035. On reprend la Chine. Les chiffres, je vous l'ai dit, sont absolument monstrueux. Ils produisent 4,8 gigawattheures de batteries électriques, ils en consomment 1,2. Donc il y a 3,6 gigas qui se baladent dans la nature.
C'est les trois quarts de la production.
Ça écrase littéralement tout ce qu'on pourra jamais produire en Europe. On fait comment? Si on veut absolument avoir les voitures électriques en 2035, on fait quoi? Pour qu'elles soient pas chères, on est obligé d'acheter des produits chinois quelque part. Donc bien sûr, on va... Évidemment, là, la question du jour, c'est pour ça que finalement, c'est bien ces mots aujourd'hui, mais concrètement, c'est quoi les prochaines décisions?
Bon, j'ai pas la réponse, hein, faut pas me regarder comme ça.
Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui à Meudon.
En tout cas, on a ça, les élections en ligne de mire, et on va voir comment tout ça évolue. 19h30, pour l'heure, je vous redonne le rappel des titres.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Alors, Henri Daubigny, excusez-moi, Guillaume Duval et Cyril Lachève. Messieurs, on passe maintenant à l'autre actu du jour. La réunion qui se tient en ce moment, qui a peut-être s'éternisé toute la nuit sur l'emploi des seniors. Les partenaires, c'est la réunion de la dernière chance là, pour trouver un accord sur cette question plus large même que l'emploi des seniors. C'est ce que le gouvernement a appelé le nouveau pacte de vie au travail. Mais quoi qu'il arrive, alors déjà, ils ont, ça fait 3 mois qu'ils négocient, ils ont beaucoup de mal à trouver un accord, mais quoi qu'il arrive, on sait que, entre guillemets, tout ça va être jeté à la poubelle, puisque le gouvernement veut faire une quatrième réforme. Est-ce que, le fait que les partenaires sociaux aient autant de mal à se mettre d'accord, est-ce que ça donne raison, quelque part, au gouvernement de vouloir reprendre la main ? Guillaume Duval ?
C'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'il est tellement clair que le gouvernement va s'asseoir sur ce qui va être négocié que c'est pas forcément la peine de se fatiguer à trouver réellement un accord. Donc tout le monde a compris depuis 2017 maintenant que Emmanuel Macron considérait qu'il était le seul à pouvoir décider de toute la politique de la France dans le domaine social, que les négociations sociales ça servait à rien, les syndicats n'avaient pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. Le patronat, il était très écouté, mais on ne voulait pas qu'il négocie pour autant. Donc là, il ne faut pas s'étonner si les négociations, dans un contexte comme ça, deviennent difficiles, n'aboutissent pas, etc. Il est clair qu'à la fin, c'est le ministère des Finances et Emmanuel Macron qui vont décider sur ce qu'on va faire dans ces domaines-là. C'est... Malheureusement, on avait eu, depuis 2000, des tentatives assez fortes, qui avaient été faites par la droite d'ailleurs, de revaloriser la négociation sociale. Hein, donc il y avait la loi Larcher, il y avait des choses comme ça qui avaient été mises en place dans la première décennie 2000. On avait l'impression qu'il y avait un certain consensus en France pour aller dans le sens, disons, d'une social-démocratie où on associe les partenaires sociaux à la définition des politiques publiques. Emmanuel Macron a fichu tout ça en l'air, sans pour autant bien gérer les finances publiques par ailleurs, mais on en discutera sans doute tout à l'heure. Donc là, après, il se retrouve tout seul à décider de tout. Voilà.
Tiens, Lachève, c'est une perte de temps.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. C'est une perte de temps, je sais pas. Mais ce qui est très frappant, c'est que... Alors effectivement, le dialogue social à la méthode de Emmanuel Macron s'est fait réduit à portions congrues. Ouais. Ce qui serait amusant, pour le coup, ce serait... Alors là, vraiment, c'est du point de vue communication ou éventuellement tactique politique, même si c'est très prétentieux comme terme. Ce serait bien qu'ils trouvent un accord ce soir, les partenaires sociaux. Mmh. Juste pour effectivement... Parce qu'en fait, le gouvernement n'attend que ça, qu'il ne trouve pas un accord, parce qu'il va s'appuyer sur...
Oui, mais si c'est un accord à minima, c'est une faiblesse aussi.
C'est simplement pour... Justement, parce que de toute façon, c'est un jeu de rôle et que, comme l'a dit Guillaume, le gouvernement repassera derrière. Après, est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, je parle de la forme. Il se fiche complètement de ce qui est en train d'être discuté, négocié. Et le fait est que maintenant, les partenaires sociaux...
Non, mais quel choix politique ça peut être d'afficher un accord à minima, puisque les patrons et les syndicats sont d'accord sur rien, Caroline Morisseau l'expliquait. Bah, quelle valeur politique ça a de dire, regardez, on a
trouvé un accord. C'est juste pour obliger le gouvernement à redire publiquement qu'il veut lui-même faire un accord et donc en quelque sorte enjamber à nouveau le dialogue social. C'est juste pour quelque sorte conforter cette idée que finalement il laisse pas les partenaires sociaux s'exprimer. Après, le fond est beaucoup plus important, je pense, mais ça, l'emploi des seniors, c'est un vrai sujet fondamental. Mais je parlais juste de la forme.
Charles-Henri Daubigny.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cyril. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'il est bon que les partenaires sociaux tombent sur un accord. Parce que on a besoin de ça, on a besoin de dialogue, on a besoin de dynamisme un peu dans les entreprises, et que montrer qu'il y a des antagonismes permanents qui vont l'un contre l'autre, c'est pas très bon dans une période où on vit une période quand même très compliquée. Je veux dire que on le rappelait tout à l'heure, la guerre est à nos portes. Il faut qu'on réindustrialise, il faut qu'on trouve. Il y a le problème de formation, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'entreprise est là aussi pour porter l'emploi, porter le dynamisme économique, et il n'y a pas que les patrons qui peuvent le faire, c'est aussi avec les salariés. Donc je pense qu'il est bon que les partenaires sociaux se mettent d'accord ce soir. Peut-être un minima, mais en tous les cas, qu'ils se mettent d'accord.
Ça enverra un signal.
Est-ce que le gouvernement prend un risque pour la suite du quinquennat de braquer, alors c'est pas nouveau, hein, vous le disiez Guillaume Duval, mais de braquer à ce point les partenaires sociaux ? Ou est-ce que finalement c'est assez indolore ?
Cyril, je pense que les Français savent maintenant à quoi s'en tenir par rapport à Emmanuel Macron sur sa manière de gouverner, etc.
C'est pas le premier.
Mais
oui, enfin, Nicolas Sarkozy s'était un peu assis aussi sur les corps intermédiaires.
Oui, enfin, au début, non, mais à la fin, au moment de la crise de 2008-2009, oui. Mais est-ce que c'est bon pour le pays et pour son avenir ? C'est ça surtout la question. Est-ce que une gouvernance bonapartiste de ce type-là, c'est ce qu'il faut au XXIe siècle ? Je ne crois pas du tout. Je pense que on est dans un monde où les gens sont plus éduqués, ont envie d'avoir leur mot à dire dans les entreprises, dans la politique publique en général. C'est pas du tout le chemin qu'on prend avec Emmanuel Macron, et c'est un chemin qui nous conduit, je pense, dans le mur. D'ailleurs, on est en train de le voir sur les finances publiques, mais on y reviendra.
Alors, les finances publiques, c'est un vaste sujet, Cyril.
Là encore, même si cet accord-là dont on discute, dont sont en train de discuter les partenaires sociaux, il est clairement pas fondamental et il est très loin du but, hein, à tous les niveaux. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait dans les trois prochaines années pour essayer de bâtir une politique économique partagée, un constat partagé pour à minima corriger les problèmes qu'on est en train de rencontrer sur les finances, en termes de finances publiques, et effectivement après dans un monde idéal, comment on fait pour s'attaquer aux vrais problèmes de formation, d'employabilité, etc. Donc si on ne fait pas avec les partenaires sociaux d'une manière ou d'une autre, je ne vois pas comment on va y arriver. Donc je veux dire, s'asseoir sur les accords, y compris ceux minimalistes qui sont en train de discuter, encore une fois, à supposer qu'ils tombent sur un accord, c'est un mauvais signal dans tous les cas de figure. Donc, au contraire, il faudrait inverser la tendance maintenant et vraiment travailler avec les partenaires sociaux. Quoi qu'on en pense, il n'a plus rien à perdre de toute façon.
Et pas essayer tout le temps de piquer le fric des partenaires sociaux, piquer le fric de l'Union.
La cagnotte de la Gécarco. Charles-Henri Daubigny.
Si on trouve un accord, il y a un vrai sujet, c'est quand même. Moi, j'ai regardé des chiffres. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Hein ? Le travail dégringole en 21 ans de 36 points auprès des Français. En 1990, 60% des Français considéraient que le travail était très important. En 2021, ces derniers chiffres que j'ai réussi à trouver, ils sont plus que 24% à l'affirmer. Donc c'est essentiel qu'on remette le travail au cœur du système et que justement... Le travail, c'est une entreprise. Et c'est du capital, c'est des salariés, c'est des clients, c'est des fournisseurs. Et c'est une vie en commun.
C'était tout le sujet, justement, je disais, c'était pas que l'emploi des seniors, c'était le pacte de vie au travail. C'était tous les sujets que les syndicats voulaient en contrependant la réforme des retraites. Ils disaient tout ça aurait dû être aussi dans la réforme des retraites parce que c'est un tout. C'est le travail au sens large. Toutes ces négos. Ça devait être justement le pendant de la réforme des retraites de l'an dernier, et finalement, ça va accoucher d'une souris. Donc là, pour le coup, c'est factuel, le compte n'y sera pas, quoi. Là-dessus.
Si tout le monde est d'accord pour, les entreprises pour mettre les seniors à la porte, et les seniors eux-mêmes plutôt préférer le chômage pendant 3 ans que de rester dans des mauvaises conditions.
Là, pour le coup, non. Il y a beaucoup de seniors qui préfèrent travailler que d'être mis au chômage.
Oui. Énormément même. Mais se contenter de ça, c'est quand même beaucoup parce qu'on est un pays, effectivement, où les conditions de travail sont très difficiles dans les entreprises. Parce que, notamment, il y a peu de dialogue social dans les entreprises elles-mêmes.
Bon. Puisqu'on parle de dialogue social et d'entreprise, on passe à la question de la rémunération des grands patrons. Il y a la saison des AG qui commence demain, ça va être Vinci. Et ce week-end, trois agences de conseil en vote auprès des actionnaires sont sorties du bois pour appeler les actionnaires à voter contre la rémunération de Carlos Tavares. C'est toujours lui qui fait parler au moment des AG parce que c'est lui de loin qui est le mieux payé en France, enfin en tout cas l'un de ceux qui sont les mieux payés. Là, le board propose une rémunération de 36 millions d'euros. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Alors, Charles-Henri Daubigny, on va commencer par vous. Est-ce que Carlos Tavares vaut 36 millions d'euros ?
Le problème, c'est est-ce qu'il les vaut ou il ne les vaut pas ? Est-ce que Mbappé vaut 70 millions ?
Alors, ça, c'est la question. Non, mais... À chaque fois qu'on... Ouais, voilà. On revient toujours à ça. Carlos Tavares, c'est le Kylian Mbappé de l'automobile.
Oui, mais en fait...
Et de l'industrie française.
En fait, il y a un vrai sujet, c'est le coefficient émotionnel. Je veux dire que mercredi soir, Paris gagne contre Barça... Tout le monde, tous les Français vont applaudir et vont être ravis que Mbappé ait marqué un but ou fait la passe décisive pour que Paris gagne contre le Barça. Maintenant, Carlos Tavares, son coefficient émotionnel vis-à-vis de l'ensemble de la population, il est zéro. En revanche, Elon Musk, il a un coefficient émotionnel beaucoup plus fort et personne ne vient critiquer sa rémunération. Même chose.
Alors la juge de Delaware, elle n'a pas jugé comme vous, hein, en l'occurrence. Il a dû même quitter le Delaware en retoquant sa rémunération. De, alors là, pour le coup, je ne sais pas combien. Milliards, c'était pas 36
55
millions.
55 milliards.
Ouais.
C'était 50.
Et 36 millions de Carlos Tavares, là, c'est le pourboire. Là.
Oui, mais alors, en l'occurrence, c'était pas du tout le même sujet.
C'était pas le même sujet,
c'était des actions.
Oui, bien sûr.
C'est pas du tout la rémunération.
Non, mais c'est contesté aussi, c'est ça que je veux dire.
Oui, oui, oui. Mais je parle dans l'opinion publique. Je parle de l'opinion publique, comment on accepte que quelqu'un puisse être rémunéré autant. Voilà. Et donc,
non, mais là, c'est pas l'opinion publique, c'est les actionnaires. C'est les actionnaires. Donc là, c'est les actionnaires. Trois agences de conseil qui sont actionnaires et qui disent c'est trop.
Alors, sur les 36, il y en avait 13 qui sont des actions, donc qui, à terme, seront versées, mais qui pourront valoir moins. Vous avez un bonus de 11,4 millions pour la bonne performance. Vous avez son fixe qui est 1,5
million. 2 millions. Ouais, le fixe n'a pas bougé. Depuis 3 ans, c'est 2 millions. Mais effectivement, tout le reste, c'est du variable.
2 millions, voilà. Et le reste, il y a une prime de 10 millions pour la réussite de sa transformation. C'est là où le bas blesse, où à un moment ou à un autre, il a fait son job.
Oui, c'est ça.
Et que ça pourrait être inclus dans,
dans le fixe.
Dans le fixe ou dans le bonus. Hein. Je veux dire que c'est un peu la même chose. Mais bon, il a signé un contrat de travail. Et à un moment ou à un autre, il faut bien l'honorer. Moi, je me souviens, c'était donc il y a 2 ans, où les actionnaires avaient refusé. Sa rémunération.
Et même Emmanuel Macron avait dit c'est choquant, et j'essaie de retrouver ses mots, enfin que c'était très choquant. Ça avait fait partie des sujets de la campagne présidentielle.
55% des actionnaires avaient refusé. Alors, comme Stellantis est coté à Amsterdam, c'était un avis consultatif. Alors qu'en France, les actionnaires, c'est du say on pay.
Oui, c'est bloqué, oui.
Ah oui, oui, tout à fait. Depuis Carlos Ghosn.
Ouais.
Voilà. Donc. Là, en l'occurrence, les actionnaires vont encore décider la prochaine AG, et on verra bien ce que fera le conseil d'administration. Parce que, est-ce que le conseil d'administration va s'asseoir sur la décision des actionnaires ?
C'est ce qu'il a fait il y a 2 ans.
Ouais. C'est ce
et l'an dernier, pour le coup, ça avait été approuvé.
Et l'an dernier, ça avait été approuvé. Oui, parce que ça avait été expliqué.
Ouais.
Il a fait une vraie campagne de
com. Alors, Guillaume Duval.
Non, mais... Oui. Je crois que la comparaison avec Mbappé, avec des artistes, etc., ça, ça tient vraiment pas la route. C'est-à-dire que la caractéristique principale d'une entreprise, c'est que c'est une œuvre collective. C'est qu'on ne sait pas distinguer ce que le patron apporte par rapport à un autre salarié. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr pour moi, c'est qu'un patron, il n'apporte pas 1700 fois ce qu'un smicard apporte à une entreprise comme ça. Le patron de Toyota, il gagne 2,9 millions d'euros. C'est déjà énorme. Mais pour autant, Toyota est quand même beaucoup plus important et ne se porte pas forcément plus mal que Stellantis aujourd'hui. Hein. Donc, croire qu'il faille rémunérer un patron à 36 millions, c'est juste qu'il est capable, lui, de manipuler son conseil d'administration pour obtenir cette rémunération-là. C'est pas du tout parce que c'est indispensable pour l'entreprise. Au contraire, je pense que c'est très négatif pour l'entreprise si les ouvriers ont le sentiment que leur travail sert surtout à engraisser le patron et à pas à faire progresser l'entreprise dans
alors,
son ensemble.
Alors, je précise qu'il y a aussi quasiment 2 milliards d'euros redistribués aux salariés, justement, en prime. Ça fait 4 000 euros à peu près par salarié au titre des résultats records de l'an dernier. Cyril Lachèvre.
C'est un peu ce que j'allais dire. C'est très difficile de mesurer finalement le salaire d'un dirigeant, quel qu'il soit. Là, si on est de des sommes astronomiques, évidemment.
Là on vient vraiment dans la loi du marché pur et dur. En gros, c'est ça, c'est la loi du marché.
Stellantis vend 6 millions de voitures, ça fait 6 euros par voiture pour le salaire de Carlos Tavares. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose quand on le dit comme ça, mais moi, je trouve que c'est quand même. Beaucoup intuitivement de se dire 6 euros pour un produit qu'on achète, même si c'est un produit à plusieurs milliers d'euros, évidemment une voiture c'est pas une canette de boisson, mais je veux dire c'est beaucoup, oui, dans l'absolu c'est beaucoup, et c'est énorme évidemment aux yeux du grand public, et c'est difficile à défendre en termes de communication, quels que soient les arguties qu'on trouve. Moi, ce qui me surprend d'un point de vue technique, c'est que je suis quand même surpris, vous l'avez cité, c'est 2 millions de salaires fixes, bon, qui ne bougent pas depuis 3 ans. Je suis surpris qu'on puisse avoir un tel écart entre un salaire fixe c'est et vrai. Un salaire variable dans l'absolu. Et je me demande si, enfin, pour essayer
pas du salaire.
Non, voilà,
les
c'est ça.
Les 13 millions, les 13 c'est millions ça, d'actions, c'est pas du salaire.
Non, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est là-dessus qu'il y a du travail à faire, probablement. J'ose même pas dire de pédagogie, mais tout simplement d'explication sur quelle base de calcul. Alors, moi, j'avoue que je l'ai pas fait. Peut-être que aux actionnaires, ça sera présenté. Sur quelle base, enfin, comment est-ce qu'on peut estimer que la fusion réussie, ça vaut 10 millions d'euros et pas 11 millions ou 9 millions. Peu importe. Là, j'ai un point de vue un peu mathématique. Je suis désolé, mais quelque part, c'est ça. Et effectivement, de mon point de vue, tant qu'on n'y arrivera pas, ça donne l'impression d'être au doigt mouillé, d'être entre personnes du conseil d'administration et ces 10 millions parce que j'ai demandé 10 millions et que j'ai 10 millions. Après, c'est la loi du marché, toutes ces choses-là, c'est pas le problème. Mais je trouve que ça, pour le coup, c'est très déstabilisant parce que moi, je ne sais pas apprécier.
Oui, d'où viennent ces chiffres ?
Une prime variable, je suis de ce montant-là, je ne peux pas l'apprécier.
Ouais. Mais après, quelque part, c'est une entreprise privée, ça les regarde.
Ah bah totalement, oui, ça,
de toute façon, mais c'est pour ça que je dis qu'à un moment ou à un autre, c'est aux actionnaires de décider.
C'est l'actionnaire qui décide.
Et à prendre son risque social, pour le coup.
Et c'est aux actionnaires. Maintenant, encore faut-il que le conseil d'administration tienne compte de l'avis de ces actionnaires. Parce qu'il y a deux ans, ils se sont assis sur le vote des actionnaires.
Ouais. Bon, parce que mais vous l'avez dit, c'est consultatif.
Ouais. Mais il serait coté à Paris, que là, ça serait décisif.
Oui,
mais voilà.
Exactement. Ce chiffre aussi, pour se donner un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que ce que gagne Patrick Pouyanné chez Total. Et on parle d'une des majors mondiales du pétrole.
Enfin, honnêtement, Carlos Tavares est un patron impressionnant hein, dans sa catégorie. Enfin, même au-delà de l'automobile, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'il a fait de Stellantis. C'est incroyable. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut 36 millions ? Je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai pas les éléments pour. Mais en tout cas, le fait est que là-dessus, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire,
il a
pas
réussite quand même.
Oui. C'est certain. Et effectivement, alors après,
vous êtes d'accord là-dessus, Guillaume Nivelle, c'est une réussite, chez Stellantis ?
C'est une entreprise qui partait d'une situation très difficile, c'est sûr.
Et qui
mais comme je vous l'ai dit, quand on voit ce que gagne un patron japonais par rapport à ça, ça pose quand même des questions.
Alors, vous parlez de la concurrence.
18 milliards, c'est quand même 18 milliards de bénéfices. Hein.
Oui,
c'est le plus gros bénéfice du CAC.
C'est certain.
Juste derrière Total. Mais ce que dit le board, c'est qu'aujourd'hui, l'automobile, c'est une des industries la plus compliquée au monde, en fait.
Oui,
il y a une telle concurrence avec Musk, Tesla, les Chinois qui cassent les prix, les marques allemandes historiques, les Japonais, que réussir dans ce que Tavares appelle justement cette guerre darwinienne, c'est très 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 dur et donc ça doit être très très bien payé.
Vous
êtes d'accord avec cette présentation des choses
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire toujours très gaffe aux résultats à court terme par rapport à ce que ça donne sur le moyen terme. Okay. C'est facile, non, c'est pas facile. On peut... en coupant les coûts, dégager des bénéfices importants une année. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a dépensé suffisamment en R&D, en nouveaux modèles, etc., pour que dans 5 ans, ça marche toujours. Là, je ne sais pas l'apprécier pour Stellantis, mais il faut
s'arrêter.
Mais là,
ça fait plusieurs années que les résultats sont excellents. C'était pas juste l'an dernier. L'an dernier, c'était encore mieux, mais ça fait plusieurs années que le trend est très très bon, quoi.
Oui, mais donc c'est aux actionnaires de décider.
Oui, ça c'est sûr.
Enfin, en théorie, malheureusement.
Le mot de la fin là-dessus pour vous, si vous êtes d'accord pour dire que l'automobile c'est vraiment une des industries. On parlait tout à l'heure de voilà des panneaux solaires, ça s'est écroulé, les éoliennes, ça s'est écroulé en Europe. Est-ce que là on a une industrie européenne menacée? Alors Stellantis maintenant c'est très américain, mais est-ce qu'il fait quand même un sacré job et ça mérite du coup une rémunération un peu hors norme?
Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est d'autant plus difficile de piloter une industrie automobile en Europe, un constructeur automobile en Europe, qu'on n'a pas forcément la main sur le volant et qu'on est presque en pilotage automatique, guidé par ces fameuses normes, ces fameuses injonctions de faire que des véhicules électriques en 2035. Carlos Tavares, c'est pas le plus fan de cette mesure.
Ah non, loin de là, il a
le courage de ses opinions. On en pense qu'on en veut derrière, mais au moins il le dit publiquement. Donc effectivement, oui, c'est une industrie très compliquée, mais elles le sont toutes, très honnêtement, elles le sont toutes.
Ah voilà, c'était ça ma question, ouais. Pas l'automobile plus qu'une autre finalement.
Bah, l'industrie pharmaceutique est aussi très compliquée. Il faut regarder aussi, par exemple, si on compare Renault, qui maintenant sort des résultats largement positifs par rapport à Nissan. Donc Luca De Meo est en train
de réussir. Renault, depuis aujourd'hui, vaut plus que Nissan en plus.
Donc Luca De Meo est aussi en train de réussir. Donc tant mieux que l'industrie européenne et automobile puisse progresser et avoir des patrons quand même assez charismatiques. Luca De Meo aussi est un patron tout à fait charismatique et qui est en train de redresser la barre.
Il va renégocier sa rémunération pour le prochain mandat, puisqu'il va bientôt être renouvelé, là, c'est dans les prochains mois, la prochaine AG. Allez messieurs, on a fait le tour de la question, en tout cas pour ce soir.
soir, on passe à l'extra time, c'est déjà les arrêts de jeu de Good Evening. Je commence avec vous, Guillaume, votre coup de cœur ou coup de gueule de l'actu en 30 secondes.
C'est pas un coup de gueule, mais donc il y a 130 magistrats qui viennent de signer un appel pour demander au gouvernement de faire le nécessaire pour la lutte contre l'évasion fiscale, pour développer effectivement la lutte contre les paradis fiscaux, etc. En France. Je crois que c'est un appel qui est bienvenu dans le contexte budgétaire où on est aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'il soit entendu pour l'instant par le gouvernement sur ce terrain-là.
Même si, d'après Gabriel Attal, Premier ministre, ancien ministre du budget, les redressements pour fraude et autres évasions fiscales ont atteint des records l'année dernière. Le message est passé. Cyril ?
Alors moi j'ai un petit coup de gueule, le sujet est grave, suite à la publication de l'étude annuelle de Heidrick Ansergel, le cabinet de recrutement de dirigeants, sur le nombre de femmes directrices générales dans le monde, sur les groupes cotés, on est passé de 7% à 8%. Péniblement, si je peux dire, en un an. Au niveau mondial, alors en France, on peut être fier, on est à 8%, on n'a pas bougé. Alors effectivement, on a 3 femmes maintenant dans le CAC 40, donc là, on en est de plus en plus fier, mais c'est un petit peu malheureusement l'arbre qui cache la forêt. Donc là-dessus, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'articles, beaucoup de voilà, on en parle énormément, mais je trouve qu'on ne fait pas beaucoup.
Bon, on a des lois qui passent, mais effectivement, il y a encore du chemin à parcourir. Le mot de la fin pour vous, Charles-Henri Daubigny.
Ah ouais, là, moi, je voulais parler des taxes sapins.
Ah, ok.
Voilà, parce que j'ai l'impression...
Vous honorez vos rendez-vous, rassurez-moi.
Je les honore, et surtout, alors, à un moment ou à un autre, on passe beaucoup de temps à attendre que le médecin veuille bien nous recevoir. On attend à peu près entre une demi-heure et 50 minutes, et généralement, le médecin ne s'excuse jamais. Bon, ça, c'est dit. Maintenant...
Vous n'allez pas chez les bons.
Si. mais maintenant... Quelle usine à gaz va-t-on mettre en place pour faire cette taxe ? Alors qu'en fait, il y aura un truc très simple, ça se fait en Allemagne. Mmh. Au moment où vous prenez rendez-vous, vous payez 5 euros.
D'accord.
Et c'est déduit.
Alors, c'est tout l'inverse de la taxe, là, pour le coup.
Quoi ? En Allemagne, vous payez 5 euros quand vous prenez rendez-vous.
D'accord. Et, c'est marrant, on verse des
arts. Et si vous n'y allez pas, derrière, vous les perdez.
Ok, on va chez le médecin comme à l'hôtel. Bon, effectivement, je n'avais pas pensé à renverser le problème. Merci à tous les trois, Charles-Henri Daubigny, Cyril Lachèvre et Guillaume Duval. Merci d'avoir débattu avec nous ce soir dans Good Evening. C'est déjà fini, on se retrouve demain en direct à 18h avec Guillaume Paul. L'émission, évidemment, si vous nous avez raté en direct, est à retrouver sur l'appli BFM Business. Vous nous écoutez en replay et en podcast quand bon vous semble. Et dans un instant, toute l'actu de la tech, là aussi en direct avec François Sorel dans Tech & Co. Bonne soirée.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.